Que Dieu vous bénisse, vous allez entendre le message. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, prêché le 29 décembre 1963 par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. Merci frère. Laissez-la chanter. Inclinons la tête maintenant. Notre Père céleste, nous te remercions ce matin pour ta bonté et ta miséricorde de nous avoir donné le privilège de nous réunir ici de nouveau, une journée de ce côté-ci de la grande éternité pour adorer le bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions parce qu'il est venu sur la terre pour nous racheter d'une vie de péché, et pour nous donner ce grand héritage que nous avons par sa justice. Et comme nous sommes ici ce matin, en tant que ses ambassadeurs, pour rompre ce pain de vie, pour cette assemblée qui attend, que le Saint-Esprit inspire chaque parole et la place dans le cœur des gens, selon notre besoin. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je considère certainement comme un grand privilège, encore une fois ce matin, d'être ici avec vous. Désolé que nous n'ayons pas plus de place que ce que nous avons pour prendre soin des gens. Notre tabernacle n'est pas assez grand et nous sommes très reconnaissants d'être ici pendant ces vacances de notre maison là-bas à Tucson. Et le temps était un peu difficile, mais nous étions heureux d'être ici et d'avoir la réunion. Maintenant, je vais annoncer que ce soir, il va y avoir un service de guérison ou de prière pour les malades. Je viens de le dire à Billy. Il a dit, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, eh bien, tu ferais peut-être mieux de distribuer des cartes de ce soir à 6h30 pour que les gens ne soient pas... Et voyez, c'est tellement bondé ici afin que nous puissions savoir comment les faire venir un par un. Alors, vous pouvez être appelé par le numéro de votre carte et ainsi, il n'y aura pas de congestion. Nous pourrons simplement les appeler un par un, les laisser passer dans la ligne alors que nous prions pour eux. Ainsi, si vous êtes malade et si vous avez des bien-aimés qui sont malades et que vous voulez les amener, venez vers environ 6h30, quelque chose comme ça, 7h, et demandez une carte de prière. Il sera à la porte ou peu importe la façon dont il les distribue, alors que vous entrerez. Et là, ce sera probablement la dernière fois que je serai ici pour un certain temps, parce que j'ai un programme très chargé maintenant au sud et toujours aux États-Unis jusqu'à ce printemps. Donc, nous pourrons peut-être revenir un peu plus tard cet été. Et si le Seigneur le veut, j'aimerais bien si nous obtenons l'endroit et s'il est climatisé, j'allais la demander à Billy. J'aimerais parler de ces 7 trompettes, avoir une réunion ici pour les 7 trompettes si le Seigneur le veut. Car les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux et maintenant les 7 trompettes, et nous pourrions avoir un peu de temps, comme en juin, où les gens ont leurs vacances. Ça leur donnerait du temps pour qu'ils puissent en rentrer. Et je suis heureux de voir Frère Shepherd ici ce matin, qui sort de l'hôpital. Je suis allé le voir l'autre jour, et Sir Shepherd, et je n'ai pas pu vous appeler hier. Ce rêve que vous m'avez envoyé était très, très bien. Vous avez vu comme j'étais Christ dans les cieux sur le cheval blanc, mais pourtant il était lié, vous voyez. Mais malgré tout, avant qu'il ne disparaisse, toute votre famille a pu le voir. Cela, l'interprétation du rêve est que votre famille a vu son agissement dans ces derniers jours avant que ça disparaisse. C'est ce que c'était. Alors, c'était très spirituel et une très bonne bénédiction pour vous, votre famille. Cette famille est passée par de grandes tribulations pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Et maintenant, nous avons quelque chose d'un peu triste ce matin, depuis que j'ai rencontré ici un de nos précieux amis et qui vient à ce tabernacle, la famille Coates, que nous aimons tous. Ils viennent de l'Est et ou des environs de Chicago. Et sa Billy Abib et sa sœur Armstrong et toutes les filles. Et je pense qu'ils étaient d'anciens Nazaréens. Ils sont venus au Seigneur et ce sont de très précieux amis pour nous. Les frères et sœurs Coates, leur père et leur mère étaient sur le chemin du retour l'autre jour en provenance de l'Ouest et quelqu'un a glissé sur la route et a tué sœur Coates sur le coup. Et pendant qu'il m'appelait là-bas à Tucson et que j'ai entendu parler, j'étais assis juste là avec une boîte de bonbons qu'elle venait de préparer pour moi sur la table. Et vous ne savez pas comment je me suis senti, mais je pense que je remercie le Seigneur ce matin. Elle n'a pas eu à souffrir. Elle se faisait vieille. Elle n'a pas eu à souffrir. Elle est rentrée à la maison pour être avec Dieu. Je pensais justement que je viens de parler à ces deux filles tout à l'heure dans la pièce là-bas. Frère Coates est ici ce matin. Il a les côtes brisées. Et je l'ai appelé à l'hôpital et où il est hospitalisé là-bas au Missouri. Et ses côtes sont brisées et tout. Mais il a certainement eu un courage remarquable, un véritable chrétien, sachant que sa petite reine n'est pas morte, qu'elle vit à jamais avec Christ et il va y avoir un temps d'union. Job a dit une fois, « Oh, que tu puisses me cacher dans la tombe et me garder dans le lieu secret jusqu'à ce que ta colère soit passée. » Avez-vous déjà remarqué que Dieu dans la nature fait la même chose comme la sève qui est dans les arbres par ici, qui retient les feuilles, et avant que l'hiver arrive, la colère qui est répandue sur la terre? Voyez, à une époque, la terre n'avait pas d'hiver, et dans le millénium, il n'y aura plus jamais d'hiver, voyez? Donc, c'est la colère sur la terre. Et quand cela s'est produit, voyez, avant que la colère ne vienne, Dieu, dans sa miséricorde, envoie cette sève directement dans le sol, dans les racines de cet arbre, et la garde là jusqu'à ce que la colère de l'hiver soit passée, puis la fait remonter à nouveau au printemps, voyez. Oh, que tu puisses me cacher dans la tombe et me garder dans le lieu secret jusqu'à ce que ta colère soit passée. C'est ce qu'il a fait pour notre sœur. C'est ce qu'il fait pour tous les chrétiens. Frère Coates, que Dieu te bénisse. Je suis si heureux de savoir que le sceau de Dieu tient à l'heure de la détresse. Je sais ce qu'il traverse parce que j'ai vécu quelque chose de semblable il y a des années. Mais je suis un par un, nous devons traverser cette grande rivière et ce sera mon tour un de ces jours et le vôtre un de ces jours. Mais comme David l'a dit, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassurent. Maintenant, en commémoration de Sir Coates, notre précieuse sœur, qui est allée vers Dieu, j'ai en guise de petite commémoration pour elle ce matin, je veux que l'Assemblée se lève un instant. Inclinons la tête et pensons à celle qui, il y a quelques jours, est entrée dans ce tabernacle, allant et venant parmi nous, nous serrant la main, une chrétienne charmante qui est maintenant à cet endroit que le Seigneur m'a laissé voir il n'y a pas longtemps, une jeune femme à nouveau qui attend que sa famille vienne. Notre Père Céleste, nous te remercions pour les souvenirs de Sir Coates. Quelle précieuse chère sœur! Et maintenant vient le temps où, lorsque notre période de vie est écoulée, le temps qui nous a été alloué, nous devons traverser la rivière. Nous te remercions parce qu'elle n'a pas eu à souffrir. Il ne devait rien y avoir contre elle ici pour qu'elle ait à souffrir. Elle est allée directement dans les bras de Dieu en un instant. Son mari, ses enfants sont ici ce matin, Seigneur, fidèles à leur poste de devoir. Comme nous te remercions pour cette foi vaillante, la foi de nos pères qui vit toujours au lieu de donjon de la flamme et de l'épée. Nous te remercions pour toutes ces choses. Accorde le repos à sa précieuse âme, Seigneur. C'était notre sœur. Le chagrin, des larmes tombent dans notre cœur à cause de son absence. Mais la joie naît de ses larmes. Rassure-nous par ta parole qu'elle vit dans une vie immortelle qui ne pourra jamais mourir. Il n'y aura jamais d'accident là où elle se trouve en ce moment. Elle n'attend que ceux qui vont par la suite venir à se joindre à elle. Bénis Frère Coates et bénis ses filles et sa famille, Seigneur et ses bien-aimés et tous ceux qui l'aiment. Et un jour, Père, nous espérons la rencontrer là-haut dans ce grand au-delà où il n'y a aucune maladie, tristesse ou mort. D'ici là, garde-nous tous en parfaite santé à ton service, en attendant avec impatience ce jour. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le demandons. Amen. que le grand Saint-Esprit qui traite avec nous ici au tabernacle en révélant sa parole, puisse-t-il accorder le repos à son âme vaillante dans la paix jusqu'à ce que nous la revoyons. Maintenant, il fait chaud ici ce matin à cause de nos corps. Vous savez, une bonne partie vient de la chaleur corporelle. Bon, nous aimerions faire une annonce ici. Parfois, nos réunions ici, puisqu'elles sont longues, c'est celle du matin. La raison, c'est ce n'est vraiment pas bien d'avoir une réunion aussi longue, parce que une heure et demie, ou parfois deux heures. Mais ce que je fais, j'enregistre ici à l'arrière, vous voyez, et cette bande va dans le monde entier. Et c'est pour ça que nous restons si longtemps le matin, c'est parce que je viens ici pour faire ces bandes. C'est pour, elles sont, vous voyez, et vous pouvez voir dans la pièce là-bas, les bandes sont en train d'être enregistrées. Elles vont partout dans le monde. Maintenant, bientôt, si le Seigneur le veut, s'en vient. Dès que je vais partir, si le Seigneur le veut, demain matin pour retourner en Arizona parce que j'ai une réunion qui s'en vient. Et puis, c'est complètement de l'autre côté au sud. Et vous, les gens du sud, de la Géorgie et du Mississippi et du Texas et de l'Alabama, nous allons passer par là jusqu'en Floride directement. En partant d'ici jusqu'à Phoenix, puis en Californie, en passant par Dallas, et peut-être s'arrêter à San Antonio, je crois que ça s'appelle comme ça, puis revenir en Alabama et en Floride et par là. Alors nous allons voir là-bas, si le Seigneur le veut, très bientôt. Aussi, gardez-nous dans vos prières. Nous vous dirons quand, si le Seigneur nous met à cœur de tenir quelques jours ici, et cet été, j'avais une série de réunions de prévues. Et beaucoup d'entre vous à New York savent que quand la vision est venue, qui disait que ces réunions dans les pays scandinaves, vous vous souvenez de celles qui étaient prévues là-bas. Et puis, pendant que j'étais à New York, j'ai eu la vision que chacune de ces réunions serait annulée pour une raison quelconque. Et je me souviens de l'avoir raconté à certains d'entre vous ici quand nous étions à New York. C'est exactement ce qui s'est passé parce qu'ils voulaient tous avoir le même jour et n'ont pas pu avoir le bâtiment. Donc là, ça pourrait laisser une petite place ici en juin. C'était peut-être la volonté du Seigneur, je pensais peut-être de revenir pour cette trompette ici même avant que ce soit trop tard. Vous voyez, mais nous savons que toute chose concourt au bien. Alors, c'était sur mon cœur, alors c'est peut-être ce qu'il veut que nous fassions. Maintenant, je vois que vous échangez vos places les uns avec les autres et vous dans les couloirs et ainsi de suite. Nous aurions aimé avoir suffisamment de places assises. Et bon, quand nous verrons ces trompettes, nous voulons avoir le gymnase du lycée. Je pense qu'il contient 5500 places assises. Et là, nous aurions la chance aussi que chacun ait sa place et s'assoie pour écouter tranquillement pendant que nous prêchons. Les trompettes, elles sont très, très bien. Je regardais ça l'autre jour. Vous voyez, dans le sixième saut, toutes les sept trompettes sonnent dans ce sixième saut, juste avant l'ouverture du septième saut, la venue de Christ. Et ce soir, j'ai un message très important dont je veux parler juste avant le service de guérison. Si vous êtes ici et que vous allez rester ici, eh bien, nous allons essayer, si c'est possible, de commencer juste un peu plus tôt parce qu'il va y avoir une ligne de prière. Je ne prêcherai pas trop longtemps, mais il y a quelque chose que je voulais dire à l'Église depuis un certain temps et je voulais en quelque sorte vous faire part sur la façon dont les choses se déroulent en ce moment et simplement où nous en sommes, au meilleur de ma connaissance, d'après l'Écriture. Maintenant, je veux que vous preniez avec moi ce matin, si vous voulez noter ou avoir en main les versets que nous lisons, le livre d'Ésaïe. Et je voudrais lire dans Ésaïe, le chapitre 42 d'Ésaïe. Nous sommes très heureux ce matin aussi d'avoir Frère Dart assis avec nous ici pendant que vous prenez. Vous savez, il pensait qu'il ne survivrait pas ici à Chevreport l'autre jour, mais il a certainement la foi. Oui, monsieur, il s'en est sorti. Le Seigneur continue de le bénir. Oui, voyez, Frère Dart a 91 ans. Et il a eu un arrêt cardiaque complet et une crise cardiaque en plus de cela. Et le docteur a dit qu'il ne voyait pas comment il pourrait vivre. Frère Dart est vivant et le docteur est mort. Voyez, parce qu'il, voyez, Frère Dart est assis ici. Et puis un homme de 91 ans avec un arrêt cardiaque et une crise cardiaque. Et là, quand je m'y rendais, je l'ai vu qui venait dans la rue, je l'ai vu dans l'église, je suis allé lui dire sous la tente d'oxygène, au nom du Seigneur, je vais te serrer la main dans la, je vais te revoir à l'église et te serrer la main dans la rue. La réunion suivante, le voilà, assis de nouveau dans l'église ici, et je suis allé à Louisville, où nous mangeons là-bas au Blue Boar pour manger, et juste comme je sortais de ma voiture, je commençais à descendre la rue, voici Frère Dodd qui venait dans la rue, voilà, ça y était parfaitement. Et comme le Seigneur l'a béni. Maintenant, nous allons parler sur la guérison ce soir et tout. Nous avons des choses exceptionnelles à vous dire ce soir. Mais maintenant, afin que je puisse enregistrer les bandes puis me préparer et les mettre en marche, je vais commencer par lire le chapitre 42 d'Ésaïe, du verset 1 à 7. Et Matthieu, au chapitre 4, en commençant, je crois, par les versets 15 et 16. Bon? Au chapitre 42 de Ésaïe, nous allons lire. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en ses lois. Ainsi parle Dieu. L'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, et qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux aveuglés, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Maintenant, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, je vais lire l'accomplissement de cette prophétie donnée par Ésaïe. Dans le chapitre 4 de Matthieu, je vais commencer à lire, si possible. Commençons par le verset 12 au lieu de 15. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée, quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Et maintenant, un texte un peu étrange sur lequel j'ai entendu quelqu'un parler qui disait ceci, mais je veux prendre ceci comme texte. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Et maintenant, nous allons parler sur le sujet de la lumière. Ceci fait suite aux trois sujets dont nous venons de parler. L'un d'eux à Tucson ou à Phoenix, sur la raison pour laquelle Jésus est venu par le chemin de Bethléem, qu'il le devait parce qu'il est Bethléem. Bethléem. P-E-T-H est maison. E-L, Dieu, E-H, E-M est pain. Pain, la maison du pain de Dieu. Et tout chrétien né en Christ est né à Bethléem, la maison du pain de Dieu. Et en cela, un type de David, qui était un fugitif au moment où il a été excommunié de son peuple. Il a été rejeté. Bethléem était assiégé et les Philistins étaient en garnison autour de Bethléem. Et David, un fugitif, un type de l'Église aujourd'hui, de Christ. Voyez, Christ est un fugitif de sa propre Église aujourd'hui. Ils ont un fugitif et quelque chose qui est rejeté. David avait été rejeté, pourtant il était oint pour être roi. Mais le prophète l'avait oint. Et durant ce temps, puisqu'il était un fugitif de son peuple, il avait rassemblé beaucoup de gens vaillants des nations. L'un d'eux a tué 800 hommes un jour avec une lance ou une épée, et un autre a sauté dans une fosse et a tué un lion un jour où il neigeait et était en train de cueillir des lentilles. Ce sont des haricots ou des pois ou quelque chose. Ils se sont tous enfuis. Il a tué des hommes jusqu'à ce que son bras soit fatigué. Ils ont aussi tué ses frères géants de Goliath, des hommes vaillants qui sont restés avec David parce qu'ils savaient qu'il allait régner. Ils le savaient. Quoi qu'on dise, Dieu avait oint David et il le savait. C'était des gens des nations. Peu importe à quel point il le rejetait, il savait quand même qu'il allait régner. Et un jour là-bas, quel type c'est d'aujourd'hui de Christ, un fugitif. Vous dites, Christ, un fugitif, selon la Bible, que nous, Dieu nous a vaillamment guidés à travers ces sept âges de l'Église, cette Église de Laodicée, Christ était un fugitif en dehors de son Église, rejeté, il cherchait à revenir à l'intérieur, voyez? Il est un fugitif de sa propre Église. Et la raison pourquoi il est un fugitif, c'est parce qu'il est la parole, et ils ne laisseront pas entrer la parole, et ils ont accepté les credos à la place. Et nous découvrons plus tard, dans cette grande lutte, ces vaillants hommes autour de David, des gens des nations. Si vous remarquez comment Bethléem a été formé, je ne veux pas aborder ce sujet, mais la façon dont Bethléem, en fait, Rahab, la prostituée, son fils, est celui qui a fondé Bethléem. C'est un lieu de culture du blé. Il y avait de la bonne eau en quantité. Il a fondé la petite ville. Et c'était la plus petite de toutes les villes, car le prophète a dit, « Bethléem en Judée, n'es-tu pas le moindre parmi toutes les villes-princes de Jérusalem ou de Judée? Mais de toi sortira le gouverneur qui règnera sur mon peuple. » De cette petite, David, quand il a été choisi là-bas, le grand, le bon frère, quand le prophète Samuel est monté pour oindre, ils étaient là, tous là, de grands hommes vaillants qui, semble-t-il, auraient fait de beaux rois. Mais celui-là même qui a été rejeté, David, celui sur qui l'huile avait été versée. La ville rejetée était celle que Christ, celle, le rejeté que Christ choisit, voyez, ceux qui sont rejetés. Puis nous voyons qu'après lui est venu Obed, et après lui est venu Boaz. Il y a eu une autre personne de la nation qui est venue par l'entremise de Ruth. Et de là est venu Isaïe, et d'Isaïe est venu David. Et d'une petite étable, à flanc de colline, est venu le roi des rois, Jésus-Christ, le fils de David, son fils spirituel. Il a été, David lui-même est né dans cette ville, et fallait qu'il vienne à ce petit endroit. Et il était appelé Bethléem, qui signifie la maison du pain de Dieu, et il est la maison du pain de Dieu. David était là sur la colline ce jour-là. Il a regardé plus bas, il a vu les Philistins qui étaient en garnison partout comme ça, il a dû avoir chaud et soif. Il a dit, « Oh, si seulement je pouvais boire de l'eau de ce puits une fois de plus. » Eh bien, le moindre de ses désirs était un ordre pour les siens, ceux qui l'aimaient. C'est pareil aujourd'hui, la moindre des désirs de Jésus ou de ce que dit sa parole devrait être un ordre pour nous, les gens des nations qui l'aimons, car nous savons qu'il va régner, peu importe combien il est rejeté, les cieux et la terre passeront, mais ceci va encore régner quand tous les cieux et la terre seront disparus. Et nous savons qu'il va régner parce que rien n'empêchera cela d'arriver. Ceci est Christ, la révélation de qui il est, et ceci va arriver exactement comme le dit la parole, parce qu'il est la parole, et le moindre de ces ordres-là, si petit soit-il, si c'est d'être rebaptisé ou quoi que ce soit d'autre, nous le ferons. De toute façon, c'est son ordre, et le moindre des désirs de David était un ordre pour ces gens des nations, car ils sont un type de l'Église des gens des nations aujourd'hui, des hommes vaillants. Vous voyez, des hommes qui sont restés avec David étaient des gens des nations, des hommes vaillants. Ils n'avaient peur de rien, ils ne savaient même pas ce qui était la peur. Un homme a pris une épée, a tué 800 hommes et ceux qui étaient autour de lui. Quel homme c'était? L'un d'eux. Un autre homme, il avait un guerrier égyptien qui accourait avec une longue lance. Il n'avait qu'un bâton à la main. Il a pris le bâton et a fait tomber la lance de sa main. Il a pris la lance et l'a tué de lui-même. Voyez? Un de ces géants avait des doigts de 14 pouces comme ça. Maintenant, 14 pouces, votre doigt est aussi long que votre main. Fermez, ouvrez-la, ça ferait une main de 28 pouces. Et avec une lance, il a plongé là-dedans et l'a tué, voyez? Pourquoi? C'était un homme vaillant, un homme de nation qui considérait un roi dont il savait qu'il allait régner. Avez-vous remarqué qu'il était vaillant envers David? Que quand David est finalement arrivé au pouvoir, il les a fait régner sur David? Jésus n'a-t-il pas promis la même chose? La même chose, il les a fait régner. Puis quand le désir de David était de boire de l'eau fraîche, il avait probablement de la vieille eau chaude stagnante là-haut qu'il buvait, mais il s'est adonné à penser à cette eau fraîche là-bas à Bethléem, la maison du pain de Dieu. Et il a dit, « Si seulement j'avais de l'eau de ce puits. » Et ces hommes ont tiré leur épée et ont combattu des Philistins sur 1 500 000, pas parce qu'ils leur avaient demandé, mais parce qu'ils savaient qu'ils en voulaient. Ils ont tué ces Philistins jusqu'au puits pendant que deux se battaient. L'autre a pris un seau d'eau. Ils se sont battus pour revenir tout le chemin du retour et l'ont remis à David. Parlez-moi d'être vaillant. David, cet homme saint, a dit que Dieu me garde de la boire alors que ses amis ont mis leur vie en danger. Il a offert l'eau en sacrifice et l'a répandue sur le sol pour le Seigneur. Donnez-la-le au Seigneur. C'est lui qui en est digne, pas moi. Ils l'ont mis. Ce type parfait de Christ, lui-même, avec sa propre vie éternelle en lui, le rocher frappé, a déversé sa vie sur la terre en sacrifice d'expiation pour nous, afin que cette parole puisse vivre. Oh, gens des nations, comme je l'ai dit, qui va tirer cette épée avec moi? Il veut boire de l'eau fraîche ce matin, pas ces vieux credos d'église stagnants et ces choses qui font perdre notre temps. Il veut une foi authentique en sa parole, quelqu'un qui va en croire chaque parole. Allons au puits et ramenons à boire un rafraîchissement, une adoration qui n'est pas bâtie sur des credos et des dénominations, mais une adoration authentique de l'Esprit avec Christ parmi nous, qui vit sa vie comme il le veut, parmi nous, ce qui ne se trouve pas avec des credos et ces différentes choses. Faisons-le simplement comme il le veut. Bon, le suivant, c'était la manière dont Dieu a traité avec les gens par un songe à l'époque de Joseph. L'avez-vous remarqué? Un songe est secondaire. C'est une voie secondaire pour Dieu de travailler. Certaines personnes peuvent avoir des rêves qui ne veulent rien dire. Vous pouvez manger trop et faire des cauchemars. Et un songe est une voie secondaire, voyez. Mais pourquoi Dieu protégerait-il son propre fils par une voie secondaire? Il est apparu à Joseph, le bien-être de son propre enfant. Il a envoyé une voie secondaire. Avez-vous déjà pensé à ça? Parce qu'il n'y avait pas de prophète dans le pays. Il devait utiliser des songes, et ce n'était pas un songe qui avait besoin d'être interprété. L'ange du Seigneur a dit, « Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car ce qui est conçu en elle est du Saint-Esprit. » C'est une chose inhabituelle qui s'est produite. Joseph, qui était un homme de bien, c'était inhabituel. Dieu était inhabituel, et l'inhabituel est difficile à comprendre. C'est pourquoi il est si difficile de comprendre la vérité aujourd'hui. Elle est si inhabituelle. Une femme qui a un bébé sans connaître d'homme, c'était très inhabituel. Mais si vous êtes honnête et sincère, Dieu peut encore vous apparaître dans un songe. Cela montre que tout ce que vous avez, que ce soit votre esprit, si vous pouvez siffler, chanter, témoigner ou quoi que vous puissiez faire, si tout votre être est soumis à Dieu, Dieu peut l'utiliser si seulement vous le laissez faire. Puis, le soir d'après, Frère Neville a prêché sur le sujet de s'échapper. Comment l'homme s'était échappé. Et j'ai trouvé cela assez remarquable. Et ce matin, le Saint-Esprit semble me faire aborder le sujet de la lumière juste après. Continuer au commencement, comment la vie de Christ a débuté à la crèche. Nous le revoyons de nouveau dans notre texte. Et il ne le savait pas. Je ne le savais pas. Et voici, c'est exactement la même chose. Vous voyez, tout de suite après, la chose suivante est là et il entre dans son ministère. Et ce soir, nous avons quelque chose qui va s'incorporer avec ça pour continuer ce soir. Le Seigneur le veut. Maintenant, une grande lumière, les gens des nations qui étaient assis dans la région des ombres de la mort, une grande lumière s'est levée sur eux. À Zabulon et à Nephtali, par le chemin de la Galilée, des gens des nations, une grande lumière, ils ont vu une grande lumière. Maintenant, la lumière, la première fois que la lumière, nous le voyons dans la Bible, ça se trouve dans Genèse 1:3, c'était la parole parlée de Dieu qui a fait la lumière. Dieu a dit que la lumière soit. Genèse 1, 3. Et la lumière fut. Donc, souvenez-vous maintenant que la lumière vient par la parole parlée de Dieu. Et la lumière est la confirmation ou le sujet qu'il a parlé est la lumière. Quand la lumière apparaît, ça montre que Dieu a dit que la lumière soit. Il n'y avait pas de lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est une preuve. La lumière est une confirmation de sa parole parlée. C'est la même chose aujourd'hui. Une confirmation de sa parole parlée. Maintenant, quand vous voyez sa parole être confirmée, ou en d'autres termes, être manifestée, être prouvée, c'est une, la lumière de sa parole parlée. Et sans lumière, rien ne peut vivre sans lumière. Il n'existe aucune vie aujourd'hui sur la terre qui soit venue autrement que par la lumière du soleil, par une vie botanique, et ainsi de suite. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors du Fils de Dieu, voyez? Il est la lumière. Maintenant, nous voyons, je crois, comme nous étudions maintenant, et cette lumière, la terre était informe. Bon, certaines personnes se disputent dans nos écoles aujourd'hui, et ainsi de suite, sur le fait que le monde a tant de millions d'années. Ils essaient de condamner la Bible et de dire qu'elle est fausse. Ils ne lisent simplement jamais la Bible, c'est tout. Parce que la Bible ne nous dit pas quel âge a le monde. La Bible dit... Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, point. Quand, comment, c'est en, on ne sait pas. Donc, ça commence comme ça. Et il y a un point, c'est la fin de la phrase. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ça a peut-être pris 100 millions d'années ou un milliard ou peu importe combien c'était. Et comment elle l'a fait, c'est son affaire, voyez, pas la mienne. Mais le monde, eh bien, la terre était informe et vide et l'eau était sur la terre. Et Dieu a dit, se mouvait à la surface des eaux, il a dit que la lumière soit. Maintenant, je crois que le soleil et ainsi de suite existaient déjà. Je crois la lune. Comme ça continue dans Genèse 3 pour l'expliquer. Mais je crois que ce qu'il y avait ici, que le monde, nous allions l'utiliser et c'est pourquoi ça se mouvait dedans. Il y avait du brouillard et de la brume partout sur la terre qui la rendait sombre. Et Dieu a dit que la lumière soit et les ténèbres se sont estompées. Il y eut un ciel sans nuages. Et je crois que c'est la façon de faire de Dieu. Dans la Bible, le verset suivant dit, le verset 4 dit, « Et il sépara la lumière des ténèbres. » Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et la parole de Dieu sépare toujours la lumière des ténèbres. Voyez? C'est la parole qui sépare, voyez, la lumière des ténèbres. Dieu fait toujours la même chose quand il est prêt à utiliser quelque chose, comme quand il s'apprêtait à utiliser cette vieille étoile ou peu importe ce que c'était, ce monde, il a dû séparer la lumière des ténèbres. Quand il est prêt à partir à utiliser un groupe de gens, il doit séparer la lumière des ténèbres. Quand il est prêt à utiliser un individu, il sépare la lumière des ténèbres. Voyez? La lumière vient par Dieu. Et là, rappelez-vous, la lumière vient par sa parole parlée. La parole de Dieu a dit que la lumière soit quand il n'y avait pas de lumière. Il a envoyé la lumière pour séparer les ténèbres de la lumière. Cette parole ordonnée a éclairci le ciel pour que le soleil puisse briller. Et sa parole, aujourd'hui, est ce qui dissipe toutes les atmosphères d'incrédulité. Je parlais, j'avais 11 entrevues juste avant d'arriver à la chaire ce matin, juste ici. C'est tellement dommage. L'autre jour, un de mes amis, Jim Poole, son petit garçon, il pensait qu'il avait fait une crise cardiaque. Il l'a amené à l'urgence de l'hôpital. C'était une condition asthmatique. Il avait jeté le petit garçon. Il ne pouvait pas, son petit cœur sautait, il respirait, il criait car il n'avait pas respiré. Il semblait que le petit se mourait. Quand ils l'ont amené ici, je m'apprêtais à aller à l'hôpital, ils l'ont amené ici. J'ai pris sa petite main, j'ai dit, ce qui a causé cela, c'est la rougeole qui a frappé le gamin. Et la rougeole, la fièvre a frappé le petit garçon. Surveillez-le. Dans quelques jours, je vais le revoir. Il sera plein de rougeur. Et le voilà, plein de rougeur, voyez? Maintenant, quoi? Dieu sépare les ténèbres de la lumière. Ou la lumière des ténèbres. Et il sépare la mort de la vie. Et il le fait par sa parole. C'est toujours sa parole qui produit cela. Maintenant, la lumière, eh bien, alors la semence était déjà sur la terre. Je crois que Dieu avait planté la semence, et aussi longtemps que le soleil peut atteindre cette semence, elle commence à pousser. Et c'est pourquoi il n'a fallu que quelques jours pour produire ces choses, parce que la semence était déjà dans la terre. Donc, ce dont elle avait besoin, c'était de la lumière. Et c'est la façon de Dieu pour aujourd'hui. Sa semence est déjà ici, sa parole. La seule chose dont elle a besoin, c'est la lumière sur elle. Et il est cette lumière, car il est la parole. La parole et la lumière sont une même chose. La vie qui s'y trouve est la lumière de la parole, voyez? C'est la vie. Le germe de vie repose dans le grain. Et le grain, la vie est ce qui jaillit et produit la vie à partir du grain. C'est comme ça que Christ, dans la parole, fait faire... à la parole, ce qu'elle est censée faire, tout comme la vie dans le grain de blé ou quoi que ce soit, elle fait faire au blé ce qu'elle est censée faire, grâce à la vie qui est en lui, toute vie. Alors, la vie ne vient que par la parole de Dieu manifestée. La vie ne vient que par la parole de Dieu manifestée. Aussi longtemps qu'elle n'est que dans le livre, comme ça, on ne peut encore remettre ça en question. Mais quand elle est manifestée, alors vous voyez le produit de ce dont elle parlait. Puisqu'elle est manifestée, alors c'est la lumière sur la parole. Vous voyez, c'est ce qui amène la parole, la vie, et donc, quand ça s'accomplit, c'est la vie dans la lumière. La lumière produit la vie. La lumière produit la vie. Plantez le blé là-bas, il va, et mettez-le dans le sous-sol, couvrez-le totalement, il ne produira jamais rien parce qu'il ne le peut pas. Il n'y a pas de lumière là-bas. Mais aussitôt que la lumière le frappe, alors il produit la vie si c'est une semence fécondée. C'est la même chose que dans la parole, vous voyez. La parole est Dieu, et quand la vie la frappe, ça produit la lumière. La frappe, elle fait vivre, revivre la parole. Dans tous les âges, ça a toujours été comme ça. Oh, comme nous apprécions ces grandes choses, de voir que la parole confirmée est la lumière de la parole parlée. Vous voyez? Dieu a dit que la lumière soit. Maintenant, que se passerait-il s'il avait dit sans que la lumière ne vienne? Alors, nous ne savons pas si c'est vrai ou faux. Nous ne savons pas si c'est correct. Nous ne savons pas s'il est Dieu ou pas, parce qu'il a juste dit qu'il y est et elle ne fut pas. Voyez? Alors, quand Dieu parle et que nous voyons que ça se produit, alors c'est la lumière qui brille, la vérité de la parole. Voyez? Il y a là la lumière et la vie. Toute vie naturelle vient par sa parole parlée. Et le soleil est sa parole parlée. Il a dit qu'il a créé une grande lumière dans les cieux pour le jour et une lumière moindre pour la nuit. Voyez? Et toute vie naturelle doit venir par la parole parlée de Dieu. Une fleur ne peut pas pousser sans la lumière de la parole parlée de Dieu brille sur elle. Car le soleil est le S-O-L-I-L. C'est la parole parlée de Dieu quand il a dit que la lumière soit. Voyez? C'est la vie parlée de Dieu, et peu importe combien de gens essaient de dire ceci, cela ou autre, elle demeure encore la même. Vous devez avoir ce soleil, alors la vie naturelle ne peut venir que par la parole parlée de Dieu. Et la vie spirituelle, la vie éternelle, ne peut venir que par la parole parlée de vie de Dieu. La vie était le F-I-L-S. Cette fois, en lui est la lumière, et en lui, il n'y a point de ténèbres. Et il est la lumière parlée de Dieu. Est-ce vrai? La parole parlée de Dieu, car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle est pour toujours Dieu, voyez? Et il faut que la lumière de Dieu, pour frapper la parole, pour la faire vivre. Voici ce qu'il a parlé. Maintenant que la lumière brille. Amen. Que la lumière brille et la lumière va amener chaque parole à sa position correcte en sa saison. Amen. Oh, vous voyez, quand vient le temps. Parfois, ce grain est dans le sol, dormant pendant tout l'hiver, comme une semence du blé l'hiver semée dans la terre. Mais quand ce soleil est au beau fixe, oh, il faut qu'elle vive. voyez? Et elle ne peut pas vivre sans le soleil. Et Dieu a fait des promesses pour chaque âge et chaque jour. Et quand la lumière est au beau fixe et qu'elle brille sur elle, elles vont produire exactement ce que la parole a dit parce qu'il est la lumière et la vie. La parole de Dieu ne vient que par la Bible. La Bible de Dieu est la forme écrite du Fils de Dieu, parce que la Bible dit qu'elle est la révélation de Jésus-Christ. C'est Dieu qui se révèle à travers Christ, et Christ est la parole. Il faut que la lumière de Dieu brille sur cette parole pour la confirmer et pour prouver que Dieu parle encore la vie éternelle. Il parle la lumière naturelle et produit la vie. La vie ne vient que par la lumière, la parole manifestée ou faite chair. Quand toutes les promesses sont devenues dans la Bible, sont manifestées, c'est quand Jésus-Christ, la parole, a été faite chair parmi nous. Dieu agit toujours à travers l'homme. L'homme est le sujet de Dieu. Maintenant, s'il fait un peu chaud ici pour vous, vous pouvez baisser les fenêtres que où vous voulez, couper le chauffage. Peut-être que le concierge pourrait couper le chauffage un moment. Je vois que beaucoup ont chaud. Il fait chaud debout ici. Alors, souvenez-vous de ça. Je suis heureux qu'il fasse chaud plutôt que froid parce que j'aime la chaleur. La chaleur amène toujours la lumière, la vie. Ça prend le feu. Remarquez maintenant, faites chair. Quand la parole devient chair, elle est manifestée, comme prenez la parole et mettez-la dans la bonne position et la bonne sorte de terre, elle va produire. La semence produira selon son espèce. La parole plantée dans la bonne sorte de cœur, elle va se manifester. Elle va produire la lumière. Elle va en sortir. Très bien. Rien de naturel. Rien de naturel ou de spirituel ne peut vivre sans la lumière de Dieu. La vie ne peut alors venir que par la lumière. Rien de naturel ou de spirituel ne peut vivre sans la lumière de Dieu. Pensez-y. Très bien. Mais quand il nous envoie la lumière, voyez, il fait toutes ces choses et qu'ensuite nous la rejetons. Maintenant, voilà la partie pitoyable. C'est quand la lumière est rejetée alors qu'elle nous est envoyée. Maintenant, pourriez-vous imaginer aujourd'hui qu'un homme dise, « Je refuse de dire que le soleil existe. Je ne crois pas qu'il y a un soleil. » Il s'empresse de descendre au sous-sol et de fermer toutes les portes et il se retire dans les ténèbres. Il dit, le soleil, ça n'existe pas, la lumière, ça n'existe pas. Vous seriez sur le champ qu'il y a quelque chose qui ne va pas mentalement chez cette personne, voyez? Il y a quelque chose qui ne va pas quand il s'empresse d'aller dans un sous-sol obscur et refuse d'accepter le bénéfice de la lumière donnée par Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Il ne veut pas de la chaleur de ses rayons. Il ne veut pas de sa substance bénéfique pour la santé. Il ne veut pas de sa lumière pour avancer. Il préfère rester dans l'obscurité. Ça montre que mentalement, quelque chose ne va pas dans le naturel avec l'homme. Et je dis ceci avec amour et respect. Il y a aussi quelque chose qui ne va pas spirituellement chez un homme qui va s'empresser de retourner dans ses credos dénominationnels et refuse de voir la lumière de la Bible alors qu'elle brille juste devant lui. Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Voyez, il retourne dans ses credos et ses formes et il ferme la porte et il dit, une telle chose, ça n'existe pas. Le temps des miracles est passé et la guérison divine, ça n'existe pas. Il n'y a rien du tout de cela. C'était pour un apôtre. Cet homme est spirituellement fou. Voyez, il y a quelque chose qui cloche chez lui. Il a tiré les rideaux et rejeté le Saint-Esprit qui peut venir sur lui. S'il peut, si vous demeurez en moi et mes paroles en vous, alors la lumière qui brille sur cette parole, demandez ce que vous voulez. Voyez, il y a quelque chose qui cloche pour qu'il rejette les sources données par Dieu, que Dieu nous a données pour que nous vivions par elle, sa parole. Le juste vivra par la foi. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Pas une partie de la parole, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand un homme refuse cela, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne, quelque chose qui ne va pas avec son expérience, qu'il prétende aimer Dieu et ensuite qu'il refuse Dieu. Il y a quelque chose qui cloche chez la personne. Nous savons ça, sans l'ombre d'un doute. Il la rejette, il se précipite dans cet endroit, il dit, maintenant, je ne veux plus entendre parler, je ne me parle pas de ces choses, je n'en crois rien. Vous, peu importe ce que vous dites, un type a dit, il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé, peu m'importe que vous m'ameniez 50 cancers, que vous ameniez 50 médecins pour en témoigner, je ne crois pas. Peu m'importe que vous ressuscitiez les morts juste devant moi, je n'y croirai pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui cloche avec cette personne. Il y a effectivement quelque chose. Et pourtant, cet homme était un ministre, vous voyez, censé être un ministre. Mais juste parce que cette organisation ne croit pas aux puissances de Dieu, ne croit pas que la parole, elle veut dire exactement ce qu'elle dit. L'homme se précipite dans ce sous-sol, ce vieux sous-sol renfermé, crasseux, le sous-sol crasseux d'une organisation et refuse la chaleur des rayons qui donnent la vie du Saint-Esprit Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, il y a quelque chose qui cloche chez cette personne, voyez? Il préfère vivre dans cette moisissure, dans les ténèbres, et ainsi de suite, que de vivre dans la lumière de Dieu et de la Bible qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, vous en ferez même de plus grandes, car je m'en vais au Père. Il y a quelque chose qui cloche, c'est cette personne. Ne fait aucun doute qu'il y a quelque chose qui cloche. Et pour vous, les hommes qui écoutent ceci à travers le monde entier, où que vous soyez, il y a quelque chose qui cloche avec votre expérience quand vous dites que vous aimez Dieu et que vous refusez sa parole. Il y a quelque chose que vous refusez le... Pas étonnant. Pas étonnant que les choses ne puissent pas aller. L'Église est dans un cet état et les choses ne peuvent pas être faites comme Dieu l'a promis. C'est parce que vous ne recevez même pas la parole ou vous ne marcherez pas dans la lumière. La Bible dit, marchons dans la lumière comme il est la lumière. Ensuite, le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Alors, si nous marchons dans la lumière de l'ordre donnée par Dieu, alors Dieu prend cette parole qui est donnée pour l'ordre et la confirme. Tout comme il l'a fait dans Genèse 1:3, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Sa parole est sortie et la lumière l'a suivie et a dissipé le brouillard. Il est ténèbres ont fui dans un coin et la lumière a brillé de l'autre côté. C'est comme ça que Dieu fait aujourd'hui. Il envoie sa parole pour l'heure et le Saint-Esprit vient et fait vivre cette parole. Et les ténèbres retournent vers leur credo et leur dénomination, mais la lumière brille parce que c'est la parole de Dieu. Confirmer que sa parole est vraie. Maintenant, il n'y a rien de fictif en cela. C'est exactement scriptural. Très bien. Puis, nous voyons que les mages d'autrefois ont suivi la substance donnée par Dieu. Ils ont suivi la parole de Dieu vers la lumière parce que c'était la parole qui a amené la vie. Maintenant, vous dites, comment ont-ils suivi? Eh bien, ils étaient en quelque sorte des mages, à ce qu'on comprend. Et puis, nous voyons que Balaam, le prophète, dans Nombre 24:17, Balaam était en quelque sorte un mage lui-même. C'était un prophète, pour de vrai. Et il a prophétisé ici et a dit qu'une étoile s'élèverait de Jacob. Quand ces mages ont vu que la parole de Dieu dit qu'une étoile s'élèverait de Jacob, ils ont suivi ce petit signe donné par Dieu jusqu'à la source de la lumière éternelle. Il en est de même pour les sages d'aujourd'hui, qui ne sont pas aveuglés par des credos. Ils vont suivre la parole parlée, donnée par Dieu, jusqu'à ce qu'ils voient la plénitude de la puissance de Dieu manifestée en cette heure. Ils la voient, et ils savent que c'est ici dans l'Écriture. Dieu l'a promis pour ce jour-ci. Peu importe combien d'observatoires, toutes les autres choses qu'ils disaient aux mages, eh bien, tu as perdu la raison. Ils ont voyagé pendant 2 ans. Ils ont traversé beaucoup de nations et ils disaient, où allez-vous? Oh, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Et quand ils se sont retrouvés à Jérusalem, le quartier général dénominationnel, ils n'avaient pas de réponse. Ils parcouraient les rues en criant, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Ils n'en savaient rien. Alors, ils ont fait appel à la parole pour le découvrir. Ils avaient suivi, ils savaient que cette étoile les conduisait à la lumière éternelle. Guide-nous vers ta lumière parfaite. Et la parole est ce qui vous guide vers la lumière, et la lumière est ce qui confirme la parole. Remarquez, ils étaient des hommes sages. Et le sage aujourd'hui parle à la sagesse de ce monde et de la folie pour Dieu. Tous vos scientifiques et vous qui dépendez d'une grande instruction, de quelque chose du genre, qui vous divisez comme un atome, cela ne peut pas vous donner la vie. Il n'y a rien d'autre qui peut vous donner la vie que la parole parlée de Dieu. C'est là seulement que cette vie peut venir, c'est par sa parole parlée. Et c'est très bien de savoir comment diviser un atome. J'aurais préféré qu'ils ne le découvrent jamais, mais s'ils doivent le faire, parce que ce monde est suspendu aujourd'hui. Il fallait que ça arrive pour creuser ces grands trous dans la terre et laisser la lave sortir et régénérer ce monde à nouveau pour faire une nouvelle terre où les justes marcheront sur les cendres des méchants, où le péché sera oublié. Tout a une façon de se renouveler. Et l'homme à qui il a été donné de vivre sur cette terre, par sa propre sagesse, en prenant l'arbre de la connaissance au lieu de l'arbre de vie, il va détruire la terre que Dieu lui a donnée pour y vivre. Mais ceux qui sont restés avec l'arbre de vie viendront à un nouveau ciel et à une nouvelle terre, où il n'y aura pas de maladie ni de mort. La lumière, Seigneur, envoie-nous la lumière. C'était les anges de Dieu qui montraient la lumière sur la colline pour guider les bergers vers la lumière éternelle. Voyez, ça ne vient que par la lumière. La vie ne peut pas venir que par les lumières. Les bergers voulaient le savoir. Vous savez, quand un roi naît, ils ont des chants et beaucoup d'excitation. Quand le roi naît, bon, il est né secrètement, il est né dans une étable, dans une mangeoire où mangeait le bétail et les chevaux, mais pourtant, il était un roi. Et les anges ont descendu et ont chanté les hymnes aux bergers dans la lumière. Les anges eux-mêmes étaient des lumières qui se manifestaient avec la parole de Dieu. Ils avaient la parole de Dieu et leur ont dit, aujourd'hui, dans la ville de David, à Bethléem, est né Christ le Sauveur. Les anges avaient la parole et la parole est venue par la lumière pour guider. Ils ont suivi la parole des anges jusqu'à la lumière éternelle. Ils ont trouvé le bébé enveloppé d'un ange, comme il l'avait dit. Car, voyez-vous, la vie ne vient que par la lumière. Remarquez, il était la parole faite lumière, ou est devenue lumière. La parole, dans cette génération, il était la parole lumière de cette génération parce que les prophètes d'autrefois avaient parlé de lui. Le voici confirmant qu'il était la lumière de la parole parlée de Dieu. Voyez, tout ce que les prophètes avaient dit avait été accompli en lui. Voyez, les prophètes d'autrefois avec la parole, comme Dieu était au commencement lorsqu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, le prophète a dit, une vierge concevra, elle enfantera un fils, ils l'appelleront Emmanuel, car ce sera Dieu avec nous. Bon, il l'avait parlé, la parole était sortie, mais il était la lumière. Il était quoi? L'accomplissement. Alléluia! Il était l'accomplissement de cette parole. Il était la manifestation de cette parole. C'est pareil aujourd'hui. La parole de Dieu a été accomplie en cette heure. C'est la lumière. C'est Dieu qui se manifeste. Il était la lumière du monde. Quand les prophètes, inspirés par le Saint-Esprit, ont dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, ou un enfant nous est donné, et on l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel, c'était là. Qu'est-ce qu'il était? La lumière qui a accompli cette parole. Amen. La lumière qui a accompli cette parole. Dans Saint Matthieu, au chapitre 28, nous le voyons. Et quand Jésus est ressuscité des morts, il était aussi la lumière de la parole parlée de David qui avait Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. Je ne permettrai pas que mon saint voie la corruption. La mort était dans les ténèbres, mais il a brisé les sceaux de la mort. Il y est entré et il en est ressorti. Il était la lumière, la parole confirmée que les morts peuvent vivre après leur mort. Il était le jour de la Pentecôte. C'était la lumière qui montrait que le Saint-Esprit était venu. Ésaïe a dit dans le chapitre 28 d'Ésaïe, Ésaïe a dit que c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, retenez ce qui est bon, car c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos, c'est ici le sabbat que je donnerai. Mais malgré tout ça, ils n'ont pas voulu écouter. Ils s'en allèrent et ont hoché la tête. Et quand le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est tombé sur ces gens et qu'ils agissaient comme des hommes et des femmes ivres, chancelants sous l'impact du Saint-Esprit, et qu'ils se sont éloignés et ont hoché la tête, et ils ont dit, ces gens sont ivres, remplis de vin doux, et ainsi de suite. C'était absolument la lumière, la parole qui avait été prophétisée, manifestée. Il en est ainsi à chaque âge. La parole manifestée vient à la vie et est la lumière de cet âge. C'est la parole manifestée. Tout comme dans Genèse 1, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand Dieu a dit qu'il y aura un fils, il y eut un fils. Quand Dieu a dit dans Joël 2, 28, il arrivera dans les derniers jours que la répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, et toutes ces choses qu'il a promises, quand cela, le Saint-Esprit est descendu, c'était la lumière sur cette parole. Quand la parole a été manifestée, c'est là qu'elle est devenue la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière que nous devrions suivre. Il est la seule lumière. Les anges qui ont trouvé la lumière, ils l'ont suivi jusqu'à lui. Donc, dans tous les âges, Dieu a fixé une partie de sa parole pour chaque âge. Dieu envoie toujours quelqu'un en qui cette parole peut entrer et en montrer la lumière. Ce, à chaque âge, cela fait la même chose, toujours la même lumière. Il était l'accomplissement, comme je l'ai dit, de toutes les divines, les puissances divines des prophètes. Ils étaient des dieux mineurs. Quand la parole du Seigneur venait à un homme, Jésus lui-même a dit que c'était un dieu. Vous le savez, il a dit, si votre loi dit, et si vos pères autrefois les appelaient ceux à qui la parole de Dieu venait, il les appelait des dieux, comment pouvez-vous me condamner quand je dis, je suis le fils de Dieu, de ce Dieu? Vous voyez, quand le Dieu lui-même, qui a parlé la parole par les prophètes, était la manifestation de cette parole parlée, et si on appelait le prophète un dieu parce qu'il était la manifestation de la parole d'un autre prophète, comment pouvez-vous le condamner quand il était la même chose? Il était le fils de Dieu, comme il sera appelé le fils de Dieu. Il était le Messie promis depuis longtemps, quand le monde avait attendu. Il était la promesse du Messie manifestée. Regardez-le, quand il se tenait là, il a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors condamnez-moi, voyez? » Voyez? Mais si vous ne pouvez pas me croire, croyez les œuvres que je fais, elles témoignent de qui je suis. Ce sont elles qui vous disent qui je suis. Voyez, cet homme aveugle et sombre dans lequel il vivait, il ne pouvait pas le voir. Il ne pouvait tout simplement pas le comprendre. Comment pourrait-il être cela? Comment pourrait-il être un fils de Dieu alors qu'il était né ici, même à Bethléem? Si seulement il avait su, la parole a dit qu'il viendrait de cette manière. Eh bien, son père, Joseph, est menuisier. Sa mère, eh bien, on croit parmi vos frères qu'il est né illégitimement. Voyez? Mais pourtant, la parole de Dieu a dit ça. Il a dit, sondez les Écritures, car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. Ce sont elles qui témoignent de moi. Ces saintes Écritures. Alors, qu'est-ce qu'il était? La lumière de Dieu. Pas étonnant qu'il ait dit, je suis la lumière du monde. Non seulement il a dit, je suis la lumière, mais il a dit, vous êtes la lumière. Si sa parole est en vous, elle rend un témoignage d'elle-même. Elle rend témoignage d'elle-même, alors vous êtes la lumière du monde. Remarquez, voyons que la lumière de chaque âge se manifeste quand même. Alors je veux vous poser la question, comme avant que notre temps se termine. Pourquoi alors l'ont-ils refusé? Comment ont-ils pu le faire alors que leur Bible même qu'ils lisaient était manifestée devant eux? Maintenant, réfléchissez sérieusement. Bon, souvenez-vous, je parle à beaucoup de gens en ce moment. Vous voyez, pas seulement à 4 ou 500 ici, mais je parle à des milliers de personnes. Arrêtez-vous une minute. Arrêtez votre magnétophone et posez-vous la question. Pourquoi un homme religieux, un homme bon, pourquoi Joseph se poserait des questions? Vous voyez? Pourquoi Joe? Parce qu'il n'a jamais sondé les Écritures. Pourquoi les sacrificateurs se posaient des questions? Pour l'unique raison qu'il le savait. Nicodème l'a bien exprimé. Il a dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Nous en sommes conscients, mais qu'est-ce que c'était? Les traditions les empêchaient de le faire. Alors pourquoi ont-ils rejeté le Messie? Pourquoi ont-ils rejeté cette lumière? Voici la parole qu'ils savaient qu'elle devait s'accomplir. Mais quand la parole a été manifestée pour montrer que la parole de Dieu s'était accomplie, comparez cela avec aujourd'hui, voyez, quand là, écrit dans la parole que cela se produirait, alors pourquoi ces hommes l'ont-ils rejeté, les docteurs? Parce qu'ils vivaient dans le reflet d'une autre lumière, c'est ça, ils vivaient dans un reflet. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils vivent. La raison pour laquelle ils l'ont rejeté, c'est parce qu'ils vivent dans le reflet d'une autre lumière, voyez. Maintenant, ils vivaient dans le reflet de ce que Moïse avait dit, ils prétendaient. Ils vivaient dans le reflet d'un autre âge qui était passé. Et c'est la raison même pour laquelle ce message que Jésus-Christ est toujours le même est rejeté, parce que les gens vivent dans les reflets d'autres âges. Pour la même raison, ils vont le rejeter. Nous remarquons, et Webster dit qu'un reflet est en quelque sorte une fausse lumière. Un reflet, une fausse lumière. C'est tout ce qu'est un reflet, voyez, comme un mirage sur la route. Vous descendez la route, beaucoup d'entre vous conduisez des voitures et vous regardez au loin devant vous quand vous voyez le soleil sur le sol et il réfléchit une lumière. Et comme dans un mirage, il semble qu'il y a de l'eau partout sur la route. Mais quand vous arrivez là-bas, il n'y a rien. Ce n'est qu'un faux mirage. Le reflet d'une vraie lumière. C'est ce que fait le diable aujourd'hui. Il montre aux gens un mirage, un conseil des églises, un groupe de dénominations qui s'avéreront être faux. Parce que c'est parce qu'il y a une véritable lumière qui brille. Si cette véritable lumière ne brillait pas, il ne pourrait pas y voir de mirage là. La véritable lumière brille. Ils vivent dans le reflet d'un autre âge, d'une autre chose, parce qu'elle a frappé et se transmet. Maintenant, un reflet, ce mirage est faux. C'est un reflet du soleil. Et c'est ainsi qu'ils ont fait la même chose, un faux reflet de la vraie lumière. Maintenant, il s'est avéré qu'il était la vraie lumière. Il était la lumière. Pourquoi savait-il qu'il était la lumière? Comment pourriez-vous savoir qu'il était la lumière? Parce que la parole qui avait été promise était manifestée à travers lui, donc il était la lumière de cette parole parlée. Amen. Oh, ça me ferait presque crier, moi qui suis un pentecôtiste baptiste. Remarquez. Un reflet, voyez? Il vit dans un reflet. Mais quand la vraie parole de vie, c'est la lumière. C'est ce que Dieu a dit. Maintenant, et si Dieu avait dit au commencement que la lumière soit, eh bien, que quelque chose d'autre soit apparu, voyez, juste un mirage. Voyez, ça n'aurait pas été le cas, malgré ce que Dieu a dit. Non, ça n'aurait pas été le cas. Et si Dieu avait dit que la lumière soit et qu'il n'y ait pas eu de brouillard, vous voyez, ça n'aurait pas été la lumière. Mais la raison pour laquelle la lumière est venue, c'était sa parole manifestée. Et aujourd'hui, quand Dieu a dit que ces choses arriveraient en ce moment et que vous le voyez et qu'il le fait, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière sur la parole de Dieu. C'est la parole devenue lumière qui se manifeste. Maintenant, ils ont dit, « Qui dis-tu que nous sommes? » Eh bien, il a dit, tu es sais, nous savons que tu es fou. Eh bien, tu es un Samaritain. Tu as perdu l'esprit. Eh bien, tu vas essayer de qui peut dire, nous savons que tu es né dans le péché. Nous savons parle d'où tu viens. Nous n'avons aucune mention de ton identité dans nos groupes. Eh bien, tu es fou. Tu as un démon, voyez. Ils ont dit, tu as perdu la tête. Mais il était en fait l'authentique, vraie lumière de Dieu qui brillait. Et le reflet avait aveuglé leurs yeux. Nous avons Moïse comme guide. Il a dit, si vous aviez cru Moïse, vous le croiriez aussi. Et si vous aviez cru Jésus et la Bible, vous sauriez à quelle heure vous vivez. Ils disent, eh bien, nous sommes chrétiens. Si vous l'étiez, vous connaîtriez les agissements de Christ pour ce jour-ci. Voyez, vous le sauriez. Jésus a dit, tous ces prophètes ont parlé de moi. Et si vous croyez ces prophètes, eh bien, vous me connaîtriez. Mes œuvres m'identifient, parce que ce qui est écrit que je ferai, je le fais. Et qui peut m'accuser d'incrédulité? Maintenant, et encore là, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Leurs yeux étaient éblouis par un reflet, voyez? Le reflet de quelque chose d'autre qu'ils avaient accepté comme étant la vraie parole parlée. Maintenant, pensez-y. Pensez-y. Ils prétendaient croire cette parole, mais leur tradition avait détourné leur visage de la vraie parole vers un reflet. Ils ne pouvaient donc plus voir la vraie chose. C'est pareil aujourd'hui. On a été de même à chaque âge, voyez. La véritable parole brille, mais ils sont tellement traditionnalisés qu'ils ne peuvent pas voir cette parole. Ils regardent un reflet et ils sont aveugles. Un reflet va vous aveugler. Il y a un mort qui en émane, qui va vous aveugler. Cela, Jésus a dit, vous êtes aveugles et vous conduisez les aveugles. Ils auraient dû être en mesure de le voir. De voir qui il était, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils vivaient dans ce reflet. Maintenant, un reflet, comme je l'ai dit, est une fausse lumière, un mirage, une fausse conception de la vraie lumière. Une fausse conception, c'est quelque chose qui est censé lui ressembler, mais qui n'est pas cela. Bon, le seul moyen pour eux de faire la différence, parce que les choses même que Jésus faisait prouvaient qu'il était la lumière. Ils pensaient qu'eux étaient dans la lumière. Mais maintenant, si vous vous arrêtez un instant, et considérer qui est dans la lumière, et à ce moment-là, maintenant, aujourd'hui, si une erreur aussi réfléchie était commise par les hommes religieux de ce jour-là, qu'une chose aussi irréfléchie a été commise, frère, ne pensez-vous pas qu'il est temps que nous nous arrêtions et considérions ce qu'est la lumière? Ne commettons pas une erreur aussi irréfléchie, mais vous le faites. Vous l'avez déjà fait, voyez, et vous ne le saviez pas, tout comme eux à l'époque. Maintenant, arrêtez-vous un instant et voyez ce que la parole dit pour aujourd'hui. S'ils s'étaient arrêtés et avaient passé, et voici qui a accompli à la lettre exactement ce que la parole a dit qu'il ferait. Et il les a mis au défi, tout comme je vous mets au défi. Voyez, je vous mets au défi de regarder dans la parole, de sonder les Écritures. Voyez, si ce n'est pas encore là, voyez. Sondez les Écritures. Car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle et ce sont elles qui témoignent de moi. Ce sont elles qui témoignent de cette œuvre aujourd'hui. Les œuvres elles-mêmes témoignent que cela s'accomplit et l'Écriture dit que cela s'accomplira. Alors c'est la lumière de l'heure. La parole de Dieu l'a dit. Vos traditions et ces choses sont exactement ce que la Bible dit, comme ceux qui ont hoché la tête et se sont éloignés. Toutes les tables sont pleines de vomissements, dit la Bible. Et c'est là qu'ils étaient. Ils ne voulaient pas y croire. Ils ont hoché la tête. Et messieurs, vous rendez-vous compte que, et frères, vous rendez-vous compte que lorsque vous rejetez la chose même que Dieu confirme devant vous, que vous faites la même chose qu'eux, vous retournez à votre vomi traditionnel, comme un chien retourne à son vomi. Si ça l'a rendu malade la première fois, ça le rendra malade à la deuxième fois. Si l'Église catholique qui est organisée et qui a formé la première organisation a amené la maladie dans l'Église, ce sera pareil pour les luthériens, méthodistes et tous les autres, baptistes, presbytériens et pentecôtistes. Comme un chien retourne à son vomi et une truie à son bourbier, voyez? Nous y arriverons dans quelques minutes, si le Seigneur le veut. Un reflet qui marche dans un reflet. Voyez, un mirage, une fausse conception de la vraie lumière. Il a prouvé qu'il était la lumière. Parce que lui, parce qu'il était dans la, beaucoup en minorité, oh là là, des millions étaient encore contre lui. Il n'y avait pas un sixième des gens, un 90e des gens de la terre qui ont su qu'il était ici, et un centième des Juifs, ou à peine un cinquantième d'entre eux, ou un quarantième d'entre eux, je dirais peut-être moins que ça, son propre pays, qui ont su qu'il était là, et ceux qui savaient qu'il était là, le considéraient comme un fou ou quelque chose, parce que la dénomination leur avait dit que c'est ce qu'il était, vous voyez, mais pourtant il était la vraie lumière qui avait été parlée depuis la Genèse, au commencement, et il leur a demandé de sonder les Écritures et de voir s'il ne vivait pas exactement en ce temps-là, si lui, les élèves, qu'il la fin n'accomplissait pas exactement ce qui était promis pour ce temps-là. Amen. Quelle chose sérieuse, frère. Nous vivons dans une époque extraordinaire. Il a prouvé qu'il avait raison. Il était la lumière même qu'il prétendait adorer. Il prétendait adorer cette lumière, et c'est pareil aujourd'hui. Ils prétendent qu'ils adorent cela. Les pentecôtistes le prétendent. Ils prétendent l'être. Ils sont si aveugles qu'ils ne peuvent pas le voir. Pourquoi? Ils s'organisent et ils mettent un reflet dans leur visage, voyez? Une tradition, c'est ce que certaines personnes ont mis en place. Ils ont dit, on va aller faire ceci, cela, cela, mais nous allons venir à la raison pour laquelle cela doit arriver, si le Seigneur le veut. Remarquez, ses œuvres étaient la parole vivante elle-même, c'est celle qu'il allait faire, fait qu'il était la parole vivante elle-même, montrant qu'il était cette lumière qui avait été promise depuis le commencement du monde. Il était cette lumière, sa lumière sur la parole promise de l'âge, il a fait vivre exactement ce que la promesse disait qu'elle ferait, mais il l'avait tellement tordu qu'il ne pouvait pas la voir, voyez, mais il était la lumière de cet âge-là. Il était la lumière qu'il prétendait adorer, il pensait qu'il adorait le Dieu même de la création, il vivait et adorait Dieu. Un reflet, et Jésus a dit, c'est en vain que vous m'adorez en enseignant comme doctrine les traditions d'hommes et non la parole. Il est la parole et il était la parole manifestée. Ils auraient dû le savoir. J'espère que cela peut percer partout où l'on entend, voyez, que cette parole peut être manifestée. Oh, vous dites, oh, nous avons la parole. Eh bien, la parole, tout le monde qui le veut peut se promener avec une Bible. Mais quand la parole est confirmée, manifestée, vous dites, eh bien, nous croyons. Oui, monsieur, ils croyaient tout le long. Satan aussi, ces pharisiens qui pouvaient les condamner, qui ne croiraient pas. Mais ils n'ont pas cru la parole de l'or. Ils adoraient le reflet de quelque chose d'autre. C'est la même chose qu'ils font aujourd'hui. Voyez? Ils maintiennent la prédiction de Luther, la tradition ou les traditions de Wesley. Il reste la tradition pentecôtiste. Mais qu'en est-il de l'or? Les pharisiens maintenaient leur tradition, mais derrière leur tradition se cachait la vraie parole de Dieu qui venait resplendir. Et quand elle l'a fait, elle a aveuglé leurs yeux. Ils ne pouvaient pas la voir parce qu'ils regardaient quelque chose d'autre. C'est pareil aujourd'hui. Puisse Dieu laisser cela pénétrer jusqu'à ce que ça atteigne le but pour que les gens qui devraient le croire. Il est plus tard que vous ne le pensez. Mon fils, Billy Paul, il part dans son sommeil, mais il ne fait pas très souvent de rêves. Il en a eu un l'autre nuit qui l'a secoué. Il a dit qu'il a rêvé qu'il était dans une église et qu'il je n'étais pas encore rentré. Il a dit, quand je suis entré, il a dit, le feu jaillissait des yeux. Et j'ai dit, le temps est venu, c'est terminé. Et tout le monde s'est mis à crier, je ne peux pas, mes enfants. Et même ma femme a dit, je n'arrive pas à faire en sorte que Sarah demande la bénédiction à la table, et ainsi de suite. Et j'ai dit, je dois aller chercher Lois, c'est le bébé. Et j'ai dit, Lois, je ne peux pas venir maintenant, le bébé est trop jeune pour savoir. Billy, l'heure est arrivée, nous devons partir. Je disais, il est minuit maintenant, avant le lever du jour, Jésus sera ici. Et si ce n'est pas cas. Alors, je suis un faux témoin de Christ. Et quelqu'un s'est levé, a dit, personne ne connaît les minutes ou l'heure. Je n'ai jamais dit la minute ou l'heure. J'ai dit quelque part entre maintenant et le lever du jour. Et j'ai dit, allons-y, allons-y. Maintenant, nous sommes arrivés à 7 heures. Allons-y. Et nous sommes montés dans la voiture. Nous avons commencé à monter la montagne. Et quand nous l'avons fait, on aurait dit que la lumière venait dans le ciel. Mais c'était sombre sur la terre. Il m'a dit que je me suis arrêté sur le bord de la route et je regardais mes mains dessus comme ça. Le feu jaillissait encore des yeux. Et il a dit, Seigneur, j'ai fait ceci sur ton nom. Je l'ai fait juste parce que tu m'as dit de le faire de cette façon. J'ai fait ces choses selon ce que tu m'as dit. J'ai fait un signe avec une grande montagne de granit et une lumière sans le secours d'aucune main a taillé une pierre dans la montagne qui pesait des centaines de tonnes et la voici qui venait. J'ai dit tournez la tête et ne regardez pas. Tout sera fini dans quelques minutes. Il a dit alors il y avait partout un grand silence sacré alors que cette pierre approchait de l'endroit. Il est peut-être plus tard que nous pensons. Là, vous voyez, c'est absolument scriptural. Vous voyez, la pierre sans le secours d'aucune main taillée dans la montagne et ainsi de un séjour, ce sera comme ça. Quand vous allez crier pour quelque chose, je leur ai dit, vous avez déjà eu ce temps. Dieu vous a constamment averti à maintes et maintes reprises. J'ai dit, même si c'est mon propre enfant ou qui que ce soit, l'heure est arrivée. Je ne peux dire que ce qu'il m'a dit de dire, ce sera là. Et ça y est. Et puis tout à coup, le voici qui vient, la pierre taillée dans la montagne sans le secours d'aucune main. Daniel l'a vu, vous savez, il y a bien des années, Billy n'en savait rien, mais c'était un songe que le Seigneur lui avait envoyé. Maintenant, voyez, il prétend adorer ce Dieu même dont il se moquait. Et la même chose s'est produite à nouveau aujourd'hui par la même raison. Ils vivent dans un reflet au lieu de la lumière. Les grandes lumières ont un éclat. Très bien. Regardez dans quelles ténèbres nous sommes aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez les meurtres, les viols, les querelles. Eh bien, c'est chose faite. Je crois que c'est Billy Graham qui a dit que lors de sa dernière réunion, dans 10 ans, chaque citoyen de la Californie devra porter une arme pour se protéger. Il ne peut pas y avoir suffisamment de force de l'ordre. Les gens sont devenus fous. Les fusillades, les meurtres, les viols, tout. Voyez, c'est devenu fou, voyez, dans les rues. Voyez, c'est le jour où nous vivons, un jour sodomite. Voyez, mais il y a une lumière qui brille. Si seulement il regardait, si seulement il voyait, s'il regardait notre parole, il voyait ce qui est censé être en cette heure-ci. Il saurait ce qu'on essaie de faire. Bon, ils prétendent qu'ils adorent cette lumière, tout comme ils prétendaient adorer cette lumière, mais ils adoraient dans le reflet d'une autre lumière au lieu de la vraie, voyez. Ils étaient la lumière. Les credos et les traditions, dans leur état d'aveuglement, les avaient détournés de la vraie lumière, de la parole promise. La parole que Dieu avait confirmée par Jésus, la lumière du monde, est venue et a fait vivre cette parole exactement en son temps, exactement au jour près. Il sera retranché au milieu de 70 semaines, c'est exact, ce qui sont les 3 ans et demi de sa prophétie. Le Messie allait venir, le prince, et allait prophétiser 3 jours et demi de ceci, puis il serait retranché des vivants et ferait l'expiation. C'est exactement ça, il a prêché 3 ans et demi. Et là, et le psaume même que David a dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Le psaume 22, « tous mes os, il me regarde, il secoue la tête, il passe sans me voir. 850 ans à l'avance, lorsque David a chanté ce cantique dans l'esprit, il a été considéré comme une prophétie et donnée. Il chantait les chants dans le temple quand le sacrifice même était suspendu sur la croix avec ses mains percées. Et ils ont percé mes mains et mes pieds. Voyez? Voyez là? Alors pourquoi ils vivaient dans un reflet? Ils n'ont pas vu la lumière. Pouvez-vous imaginer qu'une personne sensée fasse ça? Pas plus que je peux imaginer une personne sensée qui courrait dans le sous-sol et qui s'installerait dans la moisissure et fermerait ses portes et qui dirait « Je refuse de voir qu'il y a de la lumière. » C'est de la folie. Et son sens spirituel a glissé quelque part. Quand un homme voit que la Bible l'a promis et qu'il le voit vivre juste devant lui et être manifesté et qu'il reste ensuite continuellement dans ses credos et ses choses là-bas et qu'il le rejette, c'est de la délinquance spirituelle. C'est tout à fait exact. Le voilà maintenant. Il était la lumière du monde et le monde l'a... Il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Il est venu dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Voyez, mais à tous ceux qui l'ont reconnu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, à ceux qui l'ont cru en lui. Souvenez-vous, nous ne pouvons pas vivre par la lumière d'hier. La lumière d'hier n'est plus. Elle n'est plus là. Et la lumière d'hier n'est qu'un souvenir. La lumière du soleil d'hier n'est qu'un souvenir ou c'est de l'histoire. On ne peut pas vivre dans la lumière d'hier. On ne peut plus. On ne peut plus. Et le même, bien que ce soit le même soleil, mais chaque jour, il brille un peu plus fort pour faire mûrir le grain pour la moisson. Voyez? Le soleil qui se lève aujourd'hui, il devient un peu plus fort. Chaque jour, ça va devenir un peu plus fort, un peu plus fort. Et jusqu'à ce que finalement, le blé qui est là, il va prendre vie. Au bout d'un moment, la vie va apparaître. Puis un peu plus fort. Mars, avril, mai, juin, juillet. Et elle est dans la moisson à ce moment-là. Vous voyez, le même soleil qui brille aujourd'hui, en janvier ou en décembre, qui plombe sur cette neige et la fait fondre sur ce grain, il lui apporte de l'eau. C'est le même soleil, mais ce blé n'aurait pas pu vivre sous cette même lumière du soleil de juin. Voyez, il ne pourrait pas le faire. Voyez, le soleil devient un peu plus fort chaque jour et le grain devrait être un peu plus mûr pour recevoir la lumière du soleil. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le grain qui a été semé dans les premiers pères, là-bas, du temps de Luther et Wesley et les autres, la croissance a été arrêtée. Il ne peut pas accepter le Fils. Le Fils le tue. Il a regardé, il a refusé de grandir, vous voyez. Il s'est privé, il s'est retiré de la tige. Comme il est venu par ici, il a commencé sa propre petite chose. C'est devenu une balle, ensuite il n'y a plus de vie dedans. Le grain devrait mûrir et devenir plus fort, comme le Fils devient plus fort chaque jour. Maintenant, regardons, une minute. Nous allons regarder les âges de l'Église. Il y a 7 âges de l'Église. Et au fur et à mesure que ces âges de l'Église, chacune d'elles, regardez comment il leur a dit que ce qui serait, comment le grain allait mûrir et venir jusqu'à cette dernière heure. Ici, cette dernière heure où nous vivons. Donc, les Églises doivent faire la même chose. Voyez, les Églises. Regardez, Luther a semé un grain. Et Luther était un grain. Il l'a semé. Très bien. Wesley aussi, ainsi que les pentecôtistes, ainsi que les baptistes, les nazaréens. Mais voyez-vous, Luther ne voulait pas retourner vivre dans la lumière de la première dénomination catholique. Non, monsieur, il était une autre lumière. C'était Dieu qui faisait mûrir quelque chose. Maintenant, une petite minorité en est sortie, ce réveil luthérien. Puis est venu le réveil de Wesley. Et là, en cela, eh bien, il ne pouvait pas revenir en arrière et faire comme les luthériens, voyez. Et puis, sont venus les pentecôtistes. Et puis, les pentecôtistes se sont organisés et ont fait la même chose. Ils ont pris la balle, remarquez. Mais le grain continue de croître. Maintenant, nous sommes dans un autre âge. Pourquoi ne le reçoivent-ils pas? Pourquoi ne veulent-ils pas voir que le grain est mûr? Voici la parole promise pour aujourd'hui. Pourquoi ne la voient-ils pas? Parce qu'ils vivent dans le reflet de Luther, le reflet de Wesley, le reflet baptiste, le reflet pentecôtiste. Ils vivent dans le reflet d'une autre lumière. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas recevoir la lumière de la pleine parole qui est confirmée comme Dieu l'avait promis. C'est cette source où le mystère tout entier a été révélé. Reviendrait et dirait pourquoi ce mystère était ainsi. Et pourtant, quand cela arrive, ils s'en éloignent plus que jamais. Ils n'ont pas d'excuses. Dieu l'a fait par l'Esprit, par des révélations. Il l'a parfaitement prouvé par la science et tout le reste que c'est la vérité. Que c'est la vérité. Quand même, ils veulent vivre dans le reflet pentecôtiste. Je fais partie des assemblées, je fais partie des unitaires, je suis de l'Église de Dieu, je suis ceci. Voyez, ils vivent dans le reflet d'un âge d'il y a 40 ou 50 ans. Ils vivent dans un reflet luthérien. Ils vivent dans un reflet wesleyen, un baptiste, un presbytérien, ou d'un reflet nazaréen, ou d'un autre âge qui est passé, qui s'est organisé, qui a fait la même chose, et qui refuse, qui rejette la lumière alors qu'elle brille effectivement. Et vous vivez dans un mirage. Je le dis avec révérence, voyez. Mais vous êtes, ce n'est pas pour vous blesser, mais vous, pour vous réveiller. Vous vivez dans un mirage. Et si Jésus avait dit, eh bien, vous êtes aveugles. Et vous conduisez des aveugles. Il ne fait pas. Il a essayé de leur dire et ça n'a pas marché. Il a dit, laissez-le faire. Si l'aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. C'est l'heure à laquelle je suis arrivé. S'ils doivent chanceler, je n'y peux rien. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je l'ai fait conformément. J'ai fait ceci sur ton ordre, Seigneur. Tu en es témoin. Depuis 1933, là-bas à la rivière, quand cette lumière que vous voyez là a brillé, elle est restée ici dans le tabernacle et vous a témoigné toutes ces années. Et tout ce qu'elle a dit s'est accompli. Et il continue sans cesse. Laissez l'aveugle conduire l'aveugle. Je vais simplement attendre cette heure. Il va arriver un séjour. Remarquez, ils vivent dans le reflet de Luther. Ils vivent dans le reflet de Wesley. Ils vivent dans ses reflets passés. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas voir la vraie lumière. S'ils s'arrêtaient quelques minutes et s'ils prenaient simplement la Bible et ils la lisaient, ils verraient que c'est la lumière promise pour l'heure. Nous allons maintenant voir certaines de ces choses dans une minute. Il a promis, selon Malachie 4, que ces choses arriveraient. Il a promis tout au long des Écritures qu'elles arriveraient. Voyez, remarquez Israël aussi, notre type, pendant le voyage. Regardez, ils mangeaient la manne, qui était leur lumière, leur vie, qui leur donnait de la force, la vie. Est-ce vrai? Israël ne pouvait pas manger la manne qui était tombée sur eux le jour d'avant. Elle était contaminée. Elle était pourrie. Elle n'était pas bonne pour eux. Ils en mouraient. Ils en mangeaient. La manne qui les maintenait en vie hier, les tuerait aujourd'hui. La Bible dit qu'il y avait des germes dedans. Elle est contaminée. La manne qui devait se procurer de la manne, nouvelle manne chaque jour. Amen. Qu'est-ce que c'est? Les gens qui vivent de la manne de Luther, Wesley et ceux du passé, vous mangez des trucs contaminés qui vous tuent spirituellement. Ça vous tue, la mort, dans vos traditions. La manne d'hier de Luther ne fonctionnait pas pour les méthodistes. La manne méthodiste ne fonctionnait pas pour la Pentecôte. La manne pentecôtiste ne fonctionnait pas pour aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque jour, elle tombe jour après jour, fraîche, comme elle l'a fait à travers les âges de l'Église. La manne de Luther était le message de la justification. Le message de Wesley était la manifestation de la sanctification. La Pentecôte était la restauration des dons. Mais c'est la présentation de la pierre fêtière, le dernier jour, l'arbre de l'épouse, ce qui est contraire à tout cela. Et pourtant, c'est la même lumière pour ceux qui sont mûrs. Comme le même soleil qui brille aujourd'hui va faire mûrir le grain pour la récolte en juillet. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la lumière d'aujourd'hui ne servira à rien là-bas en juillet. Elle est plus forte. Le blé est plus avancé. Il est prêt à être cueilli. Amen. Il l'est certainement. Ils ne pourraient pas le récolter maintenant. Ils ne pourront alors. La saison n'était pas la bonne à ce moment-là. Elle l'est maintenant. Vous ne pouvez pas aller contre la nature de Dieu. Il y a une loi. Et d'aller contraire à cette loi, cela tue votre plante. Vous devez agir selon les lois de Dieu et ces lois sont sa parole. Toute la loi est une parole prononcée et une parole est une pensée manifestée. Voyez, maintenant nous savons que c'est vrai. Une vision, c'est quoi? La parole de Dieu ou quelque chose qui est prédit ou l'annonce d'un événement. Et une vision que ces prophètes avaient et que Jésus avait, que Paul et tous les autres, et parlaient de ce jour-ci, était une annonce de ce qui arriverait. Et ici, nous voyons ce qui a été annoncé à être manifesté et les gens ne le reconnaissent même pas. Voyez ce que je veux dire? Maintenant, la manne d'hier, regardez ici. Avez-vous déjà remarqué que le soleil, S-O-L-E-I-N, a voyagé de l'est à l'ouest à chaque fois? Avez-vous remarqué ça? Et remarquez, les âges de l'Église ont fait la même chose. Comment le soleil, S-O-L-E-I-N, a débuté à l'est? Et la civilisation a voyagé avec le soleil, la lumière parlait de Dieu pour qu'il vive. Ils sont venus en suivant le soleil, ils regardaient où il allait, la vie elle-même, quand vous êtes né, est comme un soleil, vous continuez jusqu'au coucher du soleil, de votre naissance jusqu'au coucher du soleil. L'homme a toujours voyagé vers l'ouest. La plus ancienne civilisation que nous ayons est la Chine, dans les pays de l'Est, Jérusalem. Et remarquez qu'elle continuait de voyager vers l'ouest, et à mesure qu'elle avance vers l'ouest, l'âge de l'Église aussi a voyagé de la même manière avec le F-I-L-S de Dieu. Regardez, Paul, l'Église primitive a débuté à l'Est. Elle est partie de là, a traversé la mer jusqu'en Allemagne. Elle a fait trois poules. Regardez bien, de l'Asie en Palestine. Elle a sauté de l'autre côté de l'océan jusqu'en Allemagne. Ça, c'était Luther. Elle a sauté de Luther de l'autre côté de la Manche jusqu'en Angleterre avec Wesley. Et de Wesley, elle a sauté sur la côte ouest jusqu'aux États-Unis. Et là, si vous allez plus loin, ça retourne à l'est. C'est déjà le temps du soir. Regardez combien les âges de l'Église ont combattu. Luther, Paul d'abord, dans l'âge primitif. Puis c'est descendu en Irlande, vers Irénée, et ainsi de suite. Puis en France, de là en Allemagne, en Angleterre, en allant continuellement vers l'ouest. Et maintenant, on ne peut plus aller plus loin. C'est le dernier âge. Et que dit la Bible au sujet de ce dernier âge? Voyez, géographiquement, les chronologistes et presque toutes les façons de le regarder scripturairement. En premier, l'Écriture, bien sûr, premièrement. Par l'évidence, historiquement. Quelle que soit la façon dont vous voulez le regarder, nous sommes à la fin, le dernier âge de l'Église. Et regardez au fur et à mesure qu'elle avançait, elle devenait de plus en plus forte. Et il en est de même de la véritable petite minorité de l'Église qui a grandi de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit maintenant jusqu'à la venue de la pierre fêtière. Elle prend forme. Il n'y a plus d'organisation après ceci. Il n'y en aura plus. Voyez, ça ne peut pas. Nous sommes à l'ouest. Juste pour vous montrer à travers tous les types et tout le reste, regardez ces trois sauts, ces trois poules. On va en parler ce soir, voyez, comme comment nous sommes au temps de la fin. C'est simplement le S-O-L-E-I-L à voyager comme le F-I-L-S, le F-I-L-S comme le S-O-L-E-I-L, l'Église a voyagé pareillement des sept âges de l'Église et ainsi de suite. La civilisation continue à avancer vers l'Ouest et l'Église a continué à avancer vers l'Ouest. Et maintenant, si nous allons plus loin que là, où nous sommes maintenant, nous revenons à l'Est. Vous quittez la côte Ouest, vous retournez directement en Chine, au Japon, puis revenez ici après avoir traversé 7000 milles. Vous retournez directement à l'Est. Et ainsi, l'Est et l'Ouest se sont rencontrés. C'est tout. Nous sommes à la fin. Tout est accompli. Et la même chose qui est arrivée aujourd'hui est arrivée à l'époque. La même chose qui m'a rencontré à l'Ouest m'a rencontré à l'Est. Les gens qui vivent dans le reflet d'une autre lumière qui essayaient vraiment de montrer la lumière qui devait venir et ils la rejettent parce qu'ils ont le reflet au lieu de la lumière. Oh, il y a eu une grande lumière dans le pays des gens, des nations, Zabulon, Nephtali, de Galilée, en Galilée, pays des gens des nations. Ceci est le septième âge de l'Église, rappelez-vous. Et chaque fois que ce soleil commence à briller à l'Est, c'est le même soleil qui brille à l'Ouest. Et le même esprit qui était là tout au long des âges, comme cela, est le même fils aujourd'hui, seulement est-ce qu'il y a, tout comme le mûrissement à la saison. Le soleil de maintenant sera le même soleil qui va faire mûrir le grain cet automne. Cet automne, voyez? Mais qu'est-ce que c'est? C'est que ce soleil plus ce qu'il va être. Et aujourd'hui, dans ce dernier âge, c'est ce qu'il était, plus ceci. Et pourtant, ils veulent vivre dans ce temps-là comme des nains. Ils descendent dans un vieux sous-sol renfermé, une vieille dénominationnelle de credo, et ils ferment leur store et ils disent, je refuse simplement de le voir. Tout cela n'a pas de sens. Et alors que la Bible elle-même, qu'ils prétendent croire, est en train d'être identifiée par le même Saint-Esprit qui apporte la lumière dans les derniers jours. Avez-vous remarqué? Et regardez bien attentivement, là, dans Malachie, comment il a assigné cela, la foi des pères aux enfants et des enfants aux pères. Voyez, le même esprit qui s'est levé là-bas, où il se lève encore ici, la même chose, voyez, et vice-versa, exactement la même chose à nouveau. Pourquoi ça? L'Est et l'Ouest se sont rencontrés juste sous notre nez, et pourtant ils ne le voient pas. Pourquoi? Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit, laissez-les faire. Ils sont des aveugles, qui conduisent des aveugles, ils tomberont tous dans la fosse. La lumière des autres âges n'était qu'un reflet de cette lumière, voyez. Le soleil d'aujourd'hui n'est qu'un reflet, c'est le reflet de ce que sera le soleil en juillet ou en août, si Dieu, pour la moisson, et le fils du temps de Luther, Martin Luther, Wesley et Sankey, Finney, Knox, Calvin, Moody, tous les autres, ces grands hommes d'autrefois qui avaient ces lumières, et John Smith de l'Église Baptiste, et Alexander Campbell de l'Église Campbellite, et ceux qu'on appelle les disciples de Christ, l'Église chrétienne, et tous les autres noms qu'ils portent, tous ces hommes se sentaient dans leur âge, ne faisaient que refléter ce qu'elle serait ici à la fin. Et puis ici, les enfants, immédiatement après ces fondateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas restés sur la tige, ils se sont retirés d'elle et ont formé une petite balle ici. Si vous voulez éloigner de la véritable source de vie, vous n'avez pas de vie. Prenez la balle de la chose et plantez-la dans le sol et elle va y rester pourrir. Et vous aussi, en essayant de manger la manne pourrie de ces jours-là, la moisson est mûre. Jésus a dressé la table où les saints de Dieu sont nourris de la nourriture mûre du jour par la lumière de l'Évangile qui confirme et prouve qu'il est ici aujourd'hui. Amen. Les saints mangent le pain. Pensez-y. La vieille balle d'hier, vous ne la plantez pas là, derrière. Elle est pourrie. Elle ne peut pas rester avec cela. Non, monsieur, ça ne servira à rien. Elle ne croîtra pas. Elle est séparée de la vie. Et la parole est la vie. C'est vrai, la balle tombe, la vieille et petite barbe tombe, et des choses comme ça, elle devient une dénomination par elle-même et tombe, et elle refuse de continuer avec la vie. Mais la lumière la confirme. Oh là là. Oui, monsieur, hier... Oh, oh là là, comme on devrait voir cela, vous voyez, les choses pourries d'hier, ne les mangez pas aujourd'hui. Il y a des vers dedans, vous savez ce que j'appelle des petits vermisseaux, je ne sais pas, je ne connais pas grand-chose sur la vie des gens, mais je sais qu'on a toujours appelé les vermisseaux, c'est dans n'importe quoi, comme quand ça devient un peu pourri, vous voyez, je n'en veux pas, alors si vous êtes satisfait avec ça, allez-y, mais pas moi. Mais souvenez-vous, vous dites, alors pourquoi était-ce bon hier? Si seulement vous saviez que la toute petite enveloppe qui était sur le blé au début, si elle reste dans le grain, elle fait grandir le grain. C'est précisément ce qui forme la fleur de blé. c'est ce qui était hier. Mais si elle se sépare du grain et qu'elle ne mûrit pas, alors elle disparaît. Voyez? Mais si elle passe par le processus qui donne la vie, quand elle meurt, elle se fond dans quelque chose d'autre et produit le grain. Si ce n'est pas le cas, d'où vient-il? Amen. Vous comprenez? Comme la reine d'Angleterre, une fois, elle s'est rendue dans une grande entreprise de papier. Elle a dit qu'elle aimerait visiter les usines de papier. Ils lui ont donc fait visiter l'usine bien des années avant qu'ils la fabriquent à partir de pâte à papier et ces choses-là. Alors, ils ont découvert, ils fabriquent du papier à partir de ça. Alors, au bout d'un moment, elle est entrée dans une pièce qui n'était rien d'autre qu'un gros tas de chiffons sales. Et elle a dit, d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'elle a dit, le président de l'usine a dit, c'est avec ça qu'on va faire le papier, c'est chiffon sale. Elle a dit, à partir de ça, faire du papier? Oui, alors elle avait du mal à le croire. Donc, après son départ, l'homme a pris le même tas de chiffon sale et les a fait passer par un certain procédé et les a fait sortir comme du papier épuré peu. Vous savez, elle a passé par un procédé et rendu vraiment, puis il a mis le profil de la femme dessus et la lui a envoyé. Elle avait son reflet dans ce qu'elle appelait le chiffon sale. Maintenant, c'est ce que c'est. Les choses mortes d'hier, le message de Luther, le message de Wesley, le message de la Pentecôte. Si seulement cela peut passer par le processus du Saint-Esprit de Dieu et de la parole confirmée, cela va produire le reflet de Jésus-Christ, le roi. Amen. Mais si vous les laissez là, ce sont des chiffons sales, voyez. Ça doit être façonné en quelque chose d'autre. Luther doit être façonné en Wesley, et Wesley doit être façonné en pentecôtiste, et le pentecôtiste doit être modelé en Christ. Ça passe par un processus. L'Évangile aussi a suivi un processus. Elle est en cours de traitement. L'âge de Luther, de la justification, nous y croyons. De Wesley, de la sanctification, nous y croyons. Les pentecôtistes, de la restauration des dons, du Saint-Esprit, nous y croyons. Certainement. Mais façonnez tout cela ensemble. Qu'est-ce que vous obtenez? Jésus, c'est vrai. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, ça va produire Jésus. Quand un homme dans une fonderie fabrique une cloche, il doit faire en sorte qu'elle ait une certaine note. Lorsqu'il prépare son moule et qu'il verse son fer, il met tant de laiton, tant d'acier, tant de cuivre. Pourquoi? Il sait exactement comment il faut mettre pour produire, pour qu'elle produise la bonne note. Et c'est ce que Jésus a fait par son épouse. Il a dû y mettre tant de lutteurs, tant de méthodistes, tant de presbytériens, tant de pentecôtistes dedans. Et avec qu'est-ce qu'il obtient? Son propre reflet. Qu'est-ce que c'est? Tout comme le message de la pyramide, vous voyez, ça s'accumule jusqu'au sommet ici, arrive dans la minorité avec la pierre principale. Le ministère de Jésus-Christ sur la terre doit être le même que celui qu'il avait où il ne pourra pas y venir. Tout comme de la tête jusqu'aux pieds. La tête, les pieds ne sont pas à la tête, mais la tête dirige les pieds. On fait que les pieds aillent où elle leur dit. Vous comprenez? C'est magnifique, c'est la lumière de l'or. Wesley était une grande lumière, comme il l'a dit à Jean-Baptiste. Il était une grande lumière pour son or. Bien sûr qu'il l'était. Non. Oui, monsieur, les chiffons propres. Oh, les chiffons sales d'hier. Si vous restez comme ça, ça va devenir des chiffons sales. Cela a fait son temps, comme vêtements, mais maintenant, c'est devenu du papier. La justification a fait son temps dans la justification sous Luther, puis elle a dû devenir la sanctification par Wesley. La sanctification a fait son temps jusqu'à ce qu'elle devienne le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit a fait son temps jusqu'à ce que le Saint-Esprit, duquel il n'y a qu'un seul Dieu, se fonde dans l'Église et l'Église en Christ. Et cela fait le reflet de Jésus-Christ sur la terre, ce qu'il a promis ici dans la Bible. Vous n'y croyez peut-être pas. Je ne peux pas vous forcer à le faire. Je ne suis responsable que de la parole, voyez. C'est vrai. Ainsi, vous le voyez? Vous voyez cela? Si oui, ce sera comme l'homme qui un jour est allé voir, pendant qu'il est allé au pays de Galles, à l'époque du réveil de Welsh, un groupe d'hommes des États-Unis, ils sont allés. Alors ils sont allés, ils ont dit qu'ils voulaient savoir dans quel bâtiment se tenait le réveil de Welsh. Beaucoup d'entre vous se souviennent du réveil de Welsh, ce grand réveil qui a éclaté parmi les gens de Welsh au pays de Galles. Alors ces hommes, ces très grands ministres et ainsi de suite qui venaient des États-Unis, étaient docteurs en théologie, ils voulaient aller voir cette grande chose qu'ils avaient faite. Vous savez, alors ils marchaient dans la rue, ils ont dit, ils ont rencontré ce petit policier du au coin de la rue, qui faisait tournoyer sa matraque, vous savez, qui sifflait un hymne. Comme ça, ils ont dit, eh bien, il est en train de siffler un hymne. On pourrait aller le voir ce qu'il va faire et lui poser la question. Donc, ils se sont approchés de lui, ils ont dit, monsieur, où se trouve le réveil de Welsh? Il a tiré son chapeau, il a dit, monsieur, le réveil de Welsh a lieu à l'intérieur ici, dans son corps. Oh, c'est ça! C'était lui, le réveil de Welsh! Oh Dieu, si nous pouvions seulement comprendre que nous sommes le reflet de Jésus-Christ, de sa parole manifestée. Vous êtes le reflet de sa parole. Voyez? Où a lieu le réveil de Welsh? Dans quel bâtiment est-il? Il a dit, monsieur, c'est dans mon cœur. Il était le réveil de Welsh, c'est vrai. Et aujourd'hui, l'Église devrait être Jésus-Christ en action sur la terre. Parce que je vis, vous vivez aussi. Et ma vie sera en vous. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Voyez, l'Église doit parvenir à cet endroit, elle aussi. Il a promis qu'elle le ferait, et elle le fera. Il faut qu'elle en arrive là. Alors, voyez, c'est ce qui arrive. Nous devons être comme ça. Il est la lumière. Noé ici aussi était la lumière à son époque. Il était la lumière. Noé était cette lumière. Il était la lumière pour quelle raison? Pour accomplir la parole de Dieu. Je vais détruire l'homme sur la terre que j'ai créé. Construis une arche. Et tous ceux qui désirent y entrer seront sauvés. Noé s'est avancé et a dit, il n'y a qu'un moyen, et c'est l'arche. Ils ont dit, le vieux fou fanatique, il était la parole manifestée. Noé était la lumière de l'heure. Bien sûr qu'il était à son époque, son âge, il a fait paraître la lumière. Moïse était la lumière de son époque. Certainement que je viendrai te visiter, a dit Dieu à Abraham. Je descendrai, je ferai sortir mon peuple par une main puissante et je démontrerai ma puissance en Égypte. Et quand Moïse là-haut a croisé ce buisson ardent là-bas et a découvert que le je suis était dans ce buisson, Moïse est allé là-bas et il était la lumière. Amen. Pas étonnant qu'il ait pu prendre de la poussière, souffler dessus et dire que les puces viennent sur la terre. Il avait la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? La poussière a commencé à souffler. Les puces ont commencé à exister. Alléluia! Pourquoi? Il était une manifestation de la lumière, de la parole de Dieu. J'enverrai des plaies en Égypte. Il était un prophète. Ce qu'il disait s'accomplissait. Il était la lumière de ce jour-là. Il était la lumière de Dieu. Pharaon pouvait peut-être avoir tout ce qu'il voulait, et les autres, tous les prêtres avaient ce qu'ils voulaient, mais Moïse était la lumière. Pourquoi? Il manifestait la parole de Dieu, manifestée. Dieu a promis, je les ferai sortir par une main puissante, je ne me glorifierai en cela. C'est ce qu'il faisait. C'est pour ça que Moïse a prouvé qu'il pouvait créer. Pas parce qu'il pouvait créer, mais parce que Dieu le lui a dit de le faire. Et de plus, va vers l'Assemblée et dit, demain, le Seigneur Dieu vient de me parler. Prends une poignée de poussière, jette-la dans les airs comme ceci et fais-les venir. Il n'y en a aucune ici, mais il va y en avoir là-bas. Amen. Oh, j'espère que vous ne dormez pas. Oh, la manifestation! Il a dit, je suis envoyé de Dieu. Dieu a dit à nos pères que certainement qu'il nous visiterait ici, qu'il nous ferait sortir. Je suis venu vous prouver que l'heure est proche. Débarrassez-vous de ce que vous avez. Allons-y. Voyez, certains d'entre eux ont dit, eh bien, je crois, Dathan a dit, je ne pense pas qu'il y ait d'urgence. On ne devrait pas être affolé à propos de ça. Et il semblait que cela avait échoué 4 ou 5 fois, mais quand même, c'est arrivé. Ils ont pensé, ils sont sortis, ils ont dit, nous allons lapider ce Moïse, éloignez-nous de vous. Nous ne voulons pas de lui dans notre groupe ici. Moïse a continué à avancer de toute façon parce qu'il était la vie, il était la lumière de l'or. Ce qu'il avait, c'était quoi? Dieu qui manifeste sa parole promise à travers Moïse, et Moïse était la lumière. Élie était la lumière. Va là-bas et place-toi sur cette colline. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Amen. Oui, monsieur. Il est revenu avec l'incident du Seigneur. Même la rosée ne tombera pas du ciel tant que je ne l'aurai pas ordonné. Amen. Le soleil peut briller. Vous pouvez appeler tous les nuages et faire tout ce que vous voulez, mais même la rosée ne revient pas. Tant que je ne l'aurais pas ordonné, qu'est-ce qu'il était? La lumière! Alléluia! Il était la lumière! La lumière, il était la parole de Dieu manifestée. Il pensait qu'il était fou, assis là-haut. Il avait des porteurs qui le nourrissaient, et eux se mouraient de faim. Ils voulaient vivre dans leur tradition, allez-y. Mais pas par Moïse ou par Élie. Il vivait en plein dans la lumière, assis près du torrent Kérit. Il avait simplement un bon temps avec des repas à manger, quelqu'un pour s'occuper de lui et tout. Il pensait qu'il était fou, mais il était la lumière. Il disait, hey, qu'est-il advenu de ce vieil exalté qu'on avait par ici? Eh bien, vous savez quoi? Quelqu'un était en train de chasser l'autre jour. Il a dit l'avoir vu assis là-haut, tout au haut de cette montagne là-bas. Je parie que ce vieillard est presque desséché alors qu'il est. Oh non, il était la lumière. Il était la lumière. Il était la lumière de Dieu à son époque. Jean, quand il est venu sur la terre, il est allé dans le désert pour recevoir son instruction de Dieu et non du séminaire. Il devait présenter le Messie. Alors quand il est apparu, Jésus a dit, il était une lumière qui brûle et qui luit. Alléluia! Pourquoi? Il était la parole manifestée. Ésaïe l'a dit, c'est ça, c'est vrai, il a envoyé une voix dans le désert qui criait « Préparez le chemin du Seigneur » et redressez sa porte, aplanissez ses sentiers. Il criait « La voix de celui qui crie dans le désert, le voilà qui s'avance. » Qu'est-ce qu'il était? La voix de celui qui crie dans le désert, qu'est-ce qu'il était? La manifestation de la parole, la lumière, le même Dieu qui a parlé dans la Genèse, qui a prononcé ceci, « Et voici que paraît la lumière, comme il l'avait dit, que la lumière soit pour le soleil est venu à l'existence. » Il a dit qu'il y aurait la voix de celui qui crie dans le désert, voici qu'il est venu. C'était la lumière de l'heure. Il a aussi dit dans les derniers jours, « Amen, c'est la lumière de l'heure. » Il criait dans le désert de Babylone, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, ne participez pas à ses péchés, ne touchez rien de ces choses impures, éloignez-vous de ça. » Fuyez la colère à venir. Jean dit la même chose. La hache est mise à la racine. Il n'avait pas d'instruction. Il ne parlait même pas comme un prédicateur. Il parlait de serpents, de bâtons, d'arbres, de haches, de choses auxquelles il était habitué dans le désert. Il n'a pas été élevé dans ces grandes et belles choses qu'ils ont aujourd'hui, comme ils avaient à cette époque. Il est venu avec son propre langage. Il ne s'est pas levé pour prononcer « Amen » et faire toutes ces belles courbettes. Il est sorti du désert cru et rude. Il a dit « Ne commencez pas à penser que je fais partie de ceci, je fais partie de cela. » De ses pièges, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ne pensez pas que parce que vous êtes méthodiste, baptiste, presbytérien, que vous avez quelques mains mises sur Dieu. Dieu est capable de sortir les contrebandiers, les prostituées de la rue et d'en faire des fils de Dieu. Quelqu'un va l'entendre et quelqu'un va le croire. Il a aussi dit « La hache est mise à la racine de l'arbre et tous les arbres qui ne croient pas sont coupés et jetés au feu. » C'était là son message. Il était la lumière du jour. Jésus a dit « C'était une lumière qui brûle et qui luit pour un petit moment et vous avez désiré y marcher. » Et qu'est-ce que Jean a dit, le prophète, il est au milieu de vous en ce moment même. Je ne suis pas digne de délier ses souliers. Dès qu'il va arriver sur la scène, je vais m'éclipser. Oh là là! Car il était la lumière! Il n'y a pas deux ou trois lumières, pas quatre ou cinq organisations différentes. Il y avait une lumière. Il n'y a pas de méthodiste, de baptiste, de luthérien, de presbytérien. Christ est la lumière! Et la lumière est la vie! Et la parole manifestée est la lumière de l'or. Que la lumière soit et la lumière fut. Oui, monsieur, que la lumière soit et voilà la lumière. Il a dit qu'il y aurait de la lumière en ce jour. Il y a de la lumière. Il vient. Je le crois. Regardez les promesses de cet âge. Oh là là. Chaque lumière à l'âge de l'Église, nous voyons comment elle, ça a été un spectacle pitoyable à voir, qu'il rejette. Apocalypse 3, que j'ai noté ici, Apocalypse 3, et je sais à quoi je me référais alors. Regardez la promesse de cette heure-ci, de ce de quoi nous vivons, une lumière rejetée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont rejeté en ce temps-là. Pourquoi? Ils vivaient dans un reflet. Que font-ils aujourd'hui? La même chose. Eh bien, êtes-vous un chrétien? Je suis luthérien. Je suis baptiste. Je suis presbytérien. Ça ne veut absolument rien dire. Autant dire que vous êtes un porc ou un cochon ou toute autre chose que vous voulez donner. Voyez, c'est à peu près ce que ça signifie. Bon sang, vous manquez d'égard, mais si vous le prenez d'un point de vue fondamental, c'est ça. J'ai posé la question. Un chrétien, c'est Christ en vous. Et si Christ est en vous, alors la parole est en vous. Et puis si la parole est en vous, quand la lumière brille, comment allez-vous vous en éloigner? Voyez, c'est ça la question. C'est ce qu'il y a à l'intérieur maintenant. La lumière du soir brille. L'arbre de l'épouse est en fleur. Oh, souvenez-vous, ils ont émondé ce vieil arbre et ce gélec a laissé le gazan l'a dévoré. Ce que le gazan a laissé, le asile l'a dévoré. Ce que le méthodiste a laissé, le baptiste l'a dévoré. Ce que le baptiste a laissé, le pentecôtiste l'a dévoré. Il a dit, cet arbre était Joël là-bas, il a été réduit à une souche, mais il voulait savoir s'il allait revivre. Oh oui, il avait réservé cet arbre. Il avait réservé cet arbre, oui monsieur, car c'était son épouse. Et il a dit, « Je restaurerai, dit le Seigneur. » Qu'est-ce que c'est? Je restaurerai tout ce que les luthériens ont dévoré, les wesleyens ont dévoré, et tout cela, et je vais le restaurer parce que tout est encore dans la racine de l'arbre, voyez? C'est là dans le sol, tout comme la sœur qui est descendue, comme je l'ai dit à propos de la sœur, c'est là qu'elle se trouve, et la trompette de Dieu va retentir un de ses jours, et ces luthériens élus, méthodistes, baptistes, qui n'avaient rien à voir avec aucune organisation, Luther n'a jamais rien organisé, Moody n'a jamais rien organisé, c'est ce groupe de Ricky, après lui, qui a formé une organisation, qui a pris la balle, John Smith n'a rien organisé. Aucun des autres ne s'est organisé. C'était la lumière de l'heure, Luther, Wesley ou aucun des autres. C'était ce groupe après eux qui est venu et qui a formé l'organisation. Le Saint-Esprit n'a jamais rien organisé à la Pentecôte. La Pentecôte est une expérience, pas une dénomination. Elle n'a jamais rien organisé. Oh non! Mais l'homme qui prétend être de la Pentecôte l'a organisé. C'est la balle là-bas qui meurt au lieu de l'imprimer sur le papier et de produire l'image complète de Jésus-Christ. Non, ils se sont retirés pour qu'il n'ait rien à voir avec cela. Laissez les femmes affaire. Mais nous découvrons maintenant que cette lumière, cet arbre Christ, est de nouveau rejeté par l'Église. Pourquoi? Pour la même raison qu'ils l'ont fait au début, les vieux faux reflets des lumières des jours passés. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8 dit qu'il l'est. Il est le même aujourd'hui qu'il était alors, parce qu'il fait la même chose qu'il avait fait, la même parole que Christ. Écoutez, je veux juste vous amener maintenant, et que cela soit personnel, je ne sais pas, je suis un peu décidé si je dois arrêter ça ou maintenant ou pas. Voyez, pour cette bande, je vais simplement laisser ça continuer, voyez. Je veux vous demander quelque chose. Regardez, observez ceci, voyez, il est le même hier et éternellement. Observez, ses œuvres qu'il a faites se manifestent. Maintenant, écoutez bien, quand il s'est tenu là dans Jean 14, 12, il a dit, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais au Père. Maintenant, il l'a dit. Les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne faillira jamais. Maintenant, si nous sommes tout au bout de l'âge, quand est-ce que ces grandes œuvres vont venir? Nous y sommes. Nous n'avons pas. Écoutez, si le calendrier romain est exact, il nous reste 36 ans à chaque 2000 ans. Le monde connaît sa fin. Le premier 2000 ans, il a été détruit par l'eau. Le deuxième 2000 ans, Christ est venu. C'est 1964 qui vient, 36 ans. Maintenant, le calendrier astronomique égyptien dit qu'il nous manque 17 ans. C'est 17 ans en avance sur cela, ce qui laisserait 19 ans. Jésus a dit, l'œuvre sera abrégée à cause des élus, sinon aucune chair ne serait sauvée. Où en sommes-nous? Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. De la même sorte, mais plus grandes, vous les ferez. Maintenant, regardez bien. Écoutez attentivement, revêtez. Je prie que Dieu ouvre votre cœur et votre esprit à la compréhension afin que vous compreniez sans que j'en dise trop ici. Remarquez, un jour, il a dit, voyons, quelques-unes des grandes œuvres qu'il a faites. Arrêtons-nous juste pour deux d'entre elles. Pensons à cela. Une fois, il a dit, donnez-leur à manger. Ils ont dit, nous n'avons rien. Il a dit, qu'est-ce que vous avez? Apportez-moi ce que vous avez. Ils ont dit, nous avons 5 pains d'orge et 2 poissons. Il a dit, « Apportez-les-moi. » Et il a pris les 5 pains d'orge originaux et a commencé à les rompre. Et à partir de l'original, il a créé du pain. Cela en a nourri 5 000, pas vrai? Ensuite, il a dit, « Il a pris un poisson, donnez-moi le poisson. » C'était un poisson pour commencer. Il a pris ce poisson, un autre poisson et un autre poisson. Et il en a nourri 5 000, pas vrai? Mais dans les derniers jours, il n'avait rien. Il a juste parlé. Il a dit, « Dis que ce sera là. » Et c'était là, à partir de rien. Il n'a jamais eu d'écureuil. Il n'y en avait pas là-bas. Il a juste dit qu'il y est. Et c'était là, voyez? Voyez? Oh, sa parole est infaillible et elle doit s'accomplir. Je pourrais vous dire des choses qui vous ébranleraient, voyez? C'est là quand il dit que c'est là, laissez-le le dire, voyez? Exactement. Voyez, l'Est, l'Ouest, ici, est revenu et a rencontré l'Est. C'était Moïse à même ramassé du sable. Il a dit qu'il y ait des puces et ainsi de suite sur la terre. Mais en ce dernier jour, il ne prend rien, voyez? Juste la parole. Qu'il y ait, et c'est là. Ce qui est dit, c'est comme ça que ce sera. Je veux témoigner certaines de ces choses ce soir, voyez? Voyez, de ce qui est arrivé, afin que vous puissiez voir qu'il est toujours Dieu. Ses paroles ne peuvent pas. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes. J'ai pris un poisson pour créer un poisson. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un poisson. Voyez, il est toujours Dieu. Il est toujours le même fils de Dieu qui a créé un poisson à partir d'un poisson. C'est le même fils de Dieu aujourd'hui. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même de plus grandes. Ce sera magnifié. Vous en ferez de plus grandes. Et les gens refusent de le voir. Ah, de plus grandes œuvres. Une fausse lumière. Vous savez, je pensais justement à quelque chose. Je me référais beaucoup à l'Angleterre, mais je pensais à une fausse lumière. Ici, il n'y a pas ici longtemps, vous vous souvenez tous du plus grand vol de l'Angleterre qui a été commis. C'était un hold-up de 7 millions de dollars. Je ne pense pas qu'il y ait déjà eu quoi que ce soit comparable dans le monde. Un grand hold-up récemment de 7 millions de dollars, même Scotland Yard n'arrive pas à le comprendre. Vous savez comment ils ont fait leur coup? Par une fausse lumière. Ils ont placé une lumière sur la voie ferrée prudemment jusqu'à ce qu'il arrive à un feu rouge et que cela s'arrête. Et c'est là que le vol a eu lieu, juste au bon endroit. Une fausse lumière a produit le plus grand vol que les nations aient jamais connu. Cela a volé les nations. Le plus grand hold-up, le plus grand vol a été commis par une fausse lumière. Et le plus grand vol que l'Église de Dieu ait jamais connu est une fausse lumière, un reflet. Leur dénomination, ça les a privés de la puissance du Saint-Esprit. Ça l'a enlevé à l'Église son moyen de survie même. Ça les a privés de la parole. Quand ils ont accepté un credo au lieu de la parole, ça les a dérobés. Ils prétendent avoir la parole. La parole se manifeste d'elle-même. Dans chaque âge, elle se fait connaître. Ils prétendaient avoir la parole, eux aussi, du temps de Jésus. Mais elle a dit, ils ont vu une plus grande lumière. Ils l'ont rejetée. Ils l'ont vu, mais ils l'ont rejetée. Oh, une fausse lumière. Oui, cela a coûté à l'Église le plus grand vol qu'elle ait jamais eu. Des credos froids, dénominationnels, frères, ne feront pas mûrir une parole confirmée à un grain. La Bible dit, Jésus a dit, la parole de Dieu est une semence qu'un semeur a semée, voyez? Et les credos froids ne feront pas mûrir cette parole. Non, non. Les jours froids de blizzard ne feront pas mûrir de blé. Oh non, il faut la chaleur de la lumière du soleil, parce que c'était la parole parlée de Dieu de le faire de cette façon. Et il faudra la parole parlée de Dieu aujourd'hui pour montrer aux saints de Dieu que Jésus-Christ vit. Tout comme il l'était hier, il est aujourd'hui. Les credos et les dominations n'y arriveront jamais. Ils sont froids et indifférents et le grain va pourrir dans le sol. Ça ne peut pas pousser dans de telles conditions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons ce que nous faisons comme notre prière. Monsieur Frère Billy Graham, le grand évangéliste, je crois que Dieu utilise cet homme, mais regardez ce qu'il a fait. Il va là-bas parmi les baptistes et les presbytériens. Que faites-vous? Vous obtenez une bande de membres d'église. Vous voyez où les baptistes du Sud se vendent parce qu'ils avaient plus de dénominations, que leur dénomination a pris plus d'expansion que toutes les autres dénominations protestantes. Les catholiques les ont tous ramassés ou presque l'année dernière. Vous l'avez lu dans le journal. Assurément, ne vous inquiétez pas, elle va toutes les ramasser parce qu'il faut que les baptistes et toutes les autres réunis ensemble. Ils sont tous là, mais ils ne savent pas. Le conseil de l'Église, le conseil des Églises, les met toutes sur le même pied d'égalité, la domination. Eh bien, pourquoi voulez-vous rester ici en tant que rester ici? N'utilisez-vous pas les mêmes étiquettes dénominationnelles que si vous étiez au même endroit? L'un la bête, l'autre la marque. Alors, c'est ça. Alors, ça ne fait aucune différence. C'est là qu'il est allé. Il est estampé. Ils sont ceux d'approbation. Là, vous l'avez accepté. Il est allé conduit là, à la Maison-Blanche, à Washington et au conseil des Églises. Les membres du clergé, ils ont ramené exactement ce que la Bible a dit qu'ils feraient. Oh là là, j'aurais bien aimé que cette là, je n'allais pas si vite. Bon, pensez maintenant où nous en sommes. Regardez les promesses pour ce jour-ci. Rejetez à nouveau la façon dont les églises ont fait en ces derniers jours, le reflet de la dénomination. Elle vit dans le faux reflet. C'est la raison pour laquelle elle ne mûrit pas. C'est la raison pour laquelle cette parole ne voyait pas les miracles. Un prêtre m'a interrogé il n'y a pas longtemps. Il a dit, Monsieur Branham, il a dit, comment avez-vous baptisé une certaine fille qui est sortie de cette église-ci, qui avait rétrogradé et épousé un garçon catholique qui allait à l'église catholique? Il l'a amené à l'église. J'ai dit, je l'ai baptisé du baptême chrétien. Il a dit, l'évêque veut le savoir. Très bien, voilà. Vous le jurez? J'ai dit, je ne jure jamais. Il a dit, oui. J'ai dit, il ne peut pas me croire sur parole. Eh bien, c'est pas grave, parce que je ne jure pas. La Bible dit, ne jurez pas par les cieux, c'est le trône de Dieu, la terre et son marchepied. Que votre oui soit oui et non, non, non. J'ai dit, il devra me croire sur parole. Eh bien, vous avez dit, baptême chrétien, qu'est-ce que vous voulez dire par immersion? J'ai dit, c'est la seule façon de faire le baptême. J'ai dit, je l'ai baptisé dans la rivière Ohio, je l'ai enseveli sous l'eau au nom de Jésus-Christ et je l'ai relevé. Je l'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul baptême chrétien. J'ai dit, oui, monsieur, il l'a pris en note comme ça, puis il a dit, c'est étrange. Il a dit, vous savez, l'Église catholique baptisait comme ça avant. J'ai dit, quand? Il a dit, la discussion s'est poursuivie pendant un certain temps. Il a dit, eh bien, nous sommes les catholiques d'origine. Sachant qu'il avait juste là les livres, vous savez, j'ai dit, c'est vrai, mais j'ai dit, pourquoi ne le faites-vous pas aujourd'hui? Il a dit, nous avons la puissance de pardonner les péchés. Il a dit, Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendez, ils seront retenus. J'ai dit, oui, monsieur, il l'a dit. Alors, cela ne donne-t-il pas l'autorité à l'Église? Pierre était à la tête de l'Église. J'ai dit, si l'Église pardonne les péchés de la façon dont Pierre l'a fait. J'ai dit, maintenant, quand il demande, que devons-nous faire pour être sauvés? Repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. J'ai dit, faites cela et je vais être d'accord avec vous. Il a dit, essayez-vous de placer prétendez une Bible, j'ai dit, c'est la parole. Dieu est dans son idée. Dieu est dans sa parole. Tout homme, toute parole d'homme est un mensonge. La sienne est la vérité, voyez? Donc, il n'y avait aucun moyen qu'il puisse voir. Mais voilà, ils se dirigent dans les ténèbres. Les protestants par milliers tombent dans leurs panneaux. Les voilà jusqu'à adopter leur credo et ces choses. Et ils avancent avec ça. La parole qui s'accomplit le prouve. Jésus-Christ qui se manifeste le même hier, aujourd'hui, éternellement dans ce reflet de credo qui continue d'avancer droit dans les ténèbres. Tout comme ils l'ont fait du temps de Noé, comme ils l'ont toujours fait, ils le font encore aujourd'hui directement dans les les ténèbres. Pourquoi ils rejettent la lumière? Parce que le credo les a aveuglés. Oh, quelle heure sombre dans laquelle nous sommes maintenant. Ah oui. Oui, ils rejettent la vraie lumière éternelle de Christ, et c'est à cause de ça. Les dénominations froides ne peuvent jamais donner la vie à la parole de Dieu, car elles donnent la vie à leur dénomination. Nous avons plus de chrétiens de nom en ce moment. Regardez ici, si un chrétien, j'ai demandé ceci à ce prêtre, je suis d'accord avec vous que l'Église catholique l'était au début à la Pentecôte, non pas à Nicée-Rome. L'Église n'a jamais débuté à Nicée-Rome, elle a débuté à la Pentecôte, vous voyez, c'est à Jérusalem que l'Église a débuté. Mais j'ai dit, ici j'admets que ces gens, ces esclaves et tout, qui avaient le Saint-Esprit, leur maître, ont vu leur puissance et ces choses, ce qu'ils faisaient, ressusciter les morts, parler en langue, chasser les démons, prédire des choses, et les prophètes parmi eux, et ainsi de suite, certains enveloppés de peau de brebis, ils mangeaient des herbes, ils sont allés au concile de Nicée, ainsi de suite, et comme ils étaient de grands hommes, et puis ils sont sortis de là, ils sont allés là-bas, à ce concile de Nicée, ils avaient pris position pour cette parole, mais pendant ces 15 jours sanguinaires, ils ont accepté Père, Fils, Saint-Esprit comme un credo, au lieu de la doctrine biblique au nom de Jésus-Christ, et c'est de là qu'ils viennent toutes les églises protestantes qui sont nées, la même chose pour toutes ces autres fausses, la chose, fausse conception de Saint-Esprit, ils ont pris, prennent la communion, boivent le vin, c'est la Sainte Eucharistie qui signe fille de Saint-Esprit, le prêtre vous la donne. Maintenant, la Bible ne dit pas, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, voici qu'un prêtre arriva par le chemin avec le collet tourné, il a dit, tire la langue et prends la Sainte Eucharistie. Il a dit, non, vous tous accoutrez ici, me donnez la main d'association, vous les baptistes, méthodistes, les baptistes, je vais vous mettre votre nom, apporter une lettre de quelque part. Il a dit, d'être tous dans un même lieu, dans un même accord. Et soudainement, un vent du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, il a rempli toute la pièce et se trouvait là. Ils ont tous été, et ils sont tous sortis titubants comme des hommes, Yves, Marie, et tous les autres sous l'impact du Saint-Esprit. Eh bien, les gens ont dit, en se moquant d'eux, ils disaient, ces hommes sont pleins de vin doux. Qu'est-ce qu'ils étaient? Aveuglés par un credo. Ce petit prédicateur, 2x4, appelé Pierre, s'est levé et a dit, hommes juifs, vous qui séjournez, vous les hommes de Jérusalem qui séjournez en Judée, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, mais laissez-moi vous dire ce que l'Écriture a dit que ce sera. Ceci est la lumière. Ceci est la parole manifestée. Amen. La même chose se produit aujourd'hui et ils font comme en ce temps-là. Ils s'en vont et secouent la tête. Ils disent, laissez-les faire. Un aveugle conduit les aveugles. Ils tomberont tous dans une fosse. Oh, il faut Christ, la vie éternelle, pour apporter la parole de vie à la confirmation faite chair. Oh là là, bonté. Il faut la parole. Il faut le Saint-Esprit pour faire agir la parole de Dieu. Quand Jésus a dit « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création », maintenant regardez Marc 16, sa dernière commission, « Par tout le monde, par tout le monde ». Ça, ce n'est pas encore arrivé, là. Vous voyez, par tout le monde et prêcher l'Évangile à toute la création. Celui qui croira dans tout le monde et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné et ses signes accompagneront ceux qui auront cru. Ils serreront la main du ils serreront de bons membres d'Église. Non. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ou s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne fera aucun mal. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Oh là là. Jusqu'où? À toute la création. À combien? Par tout le monde, jusqu'à qu'ils reviennent. C'est signe. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Il en fera même de plus grandes, car je m'en vais au Père. Oh, comment pouvons-nous nous en éloigner? C'est au-delà de mon entendement. Nous sommes plus dans les ténèbres qu'eux ne l'étaient. Maintenant, j'ai juste 2 versets de plus ici, puis je veux arriver à la fin aussitôt que nous sommes plus dans les ténèbres qu'ils ne l'étaient. Je sais que je vous épuise, ça fait 1h30, mais voyez, cette bande est en train d'être enregistrée là, voyez. Ils sont plus dans les ténèbres que nous le sommes, j'ai fait cette déclaration. Pourquoi les églises dans ce reflet sont tellement séduisantes? On dirait que c'est la vérité. Bon, Jésus n'a-t-il pas dit, voyons, dans Matthieu 24, voyez, Matthieu 24, Jésus a dit, dans les derniers jours, les deux esprits seront si proches que ça séduirait même les élus, si c'était possible. Il y aurait un groupe élu qui va sortir pour former l'Église dans les derniers jours. Et ces organisations, avec ce qu'elles appellent leur vérité, seraient si proches de la vraie chose qu'elles séduiraient même les élus, même les pentecôtistes. Maintenant, vous savez que vous ne pouvez pas prendre un pentecôtiste et le séduire avec une doctrine méthodiste ou baptiste. Vous n'allez pas lui faire avaler ça. Il connaît mieux. Vous n'allez pas non plus séduire un baptiste avec une doctrine luthérienne, vous voyez. Et vous n'allez pas non plus recevoir le message, tromper le message maintenant de cette parole par une doctrine pentecôtiste. Un faux père, fils, Saint-Esprit et toutes ces choses qui ont là, ces credos qu'ils ont dans cette organisation organisée. Pas du tout. Vous ne les séduirez jamais car les élus ne seront pas séduits. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? De la tromperie. Ces reflets, qu'est-ce qu'ils font? Ils conduisent l'Église au massacre du Conseil par leurs reflets. Ce sera le massacre final quand elles et Rome vont se réunir. Quand ils vont former cette image de la bête, ce sera le massacre final. Et ces reflets que vous avez maintenant, regardez ce qu'ils font, ils conduisent les gens. C'est un bouc. Un bouc conduit toujours la brebis à l'abattoir. Vous l'avez vu dans les abattoirs. Le bouc va courir jusqu'à là-bas et conduire les brebis, puis il va sauter à l'extérieur et laisser la brebis entrer là. C'est ce qu'il faut, c'est toujours ça qu'il fait. Ce sont les boucs qui ont conduit Jésus à l'agneau à l'abattoir, les boucs romains, c'est vrai. Ce sont les boucs dénominationnels aujourd'hui qui conduisent les brebis innocentes à l'abattoir. Elles mettent elles-mêmes leur nom dans ces livres là-bas et elles sont fichues. C'est ça la marque de la bête. Je parle au nom du Seigneur. J'ai retenu pendant longtemps, c'est vrai. C'est exactement ça. Qu'est-ce que la bête? Qu'est-ce que la bête? C'est la hiérarchie romaine, la première organisation. Quelle en est la marque? La même chose, exactement la même chose que c'était alors, exactement le massacre par le reflet. Mais face aux ténèbres actuelles, nous avons quand même vu briller la lumière de Dieu. Oh, combien nous sommes reconnaissants. Écoutez attentivement, nous avons vu la lumière, sa parole qu'il a promise pour ce jour-ci, être prouvée et être confirmée. C'est la vérité, la lumière de l'heure. Oh là là, je suis si heureux, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Il n'y a pas longtemps, un ministre disait qu'il était là-bas en Floride et qu'il s'était procuré une voiture. Je crois que c'était une Chevrolet et elle cessait de fonctionner pendant qu'il l'avait. Il ne pouvait pas la faire réparer. Il est allé entrer dans le garage et un petit mécanicien se penchait dessous et dessous la voiture. Il l'examinait ici et là. Il ne pouvait pas la réparer. Il essayait ceci, cela. Il essayait cela. Ça ne marchait pas. Il a mis une génératrice. Il a mis ceci. Il a mis des bougies. Et finalement, il n'arrivait pas à la faire marcher. Finalement, un homme bien vêtu s'est présenté. Il a dit, puis-je te donner un conseil? Le petit mécanicien avait assez de bon sens pour dire, oui, monsieur. Il a dit, prenez ceci, chronométrez ceci, ça. Assemblez ça ensemble une fois, essayez-la. Il a chronométré ceci et cela et les ajusté ensemble et elle a démarré. Le petit mécanicien s'est retourné et a dit, dites-moi, qui êtes-vous? Il était l'ingénieur en chef de General Motors. C'est lui qui avait fabriqué l'engin. C'est lui qui l'avait conçu. Et aujourd'hui, quand on parle de méthodiste, de baptiste, de presbytérien, le mécanicien en chef est ici. Le concepteur de sa parole. L'homme qui a créé les cieux et la terre et qui a conçu son église. On sait-il plus sur ce qu'il faut pour l'enlèvement ou est-ce que c'est l'église méthodiste ou baptiste qui en sait plus sur ce qu'il faut? Il est le concepteur. Il sait ce qu'il faut. Il est bien revêtu dans la puissance de sa résurrection. Alléluia! Il marche parmi nous, aujourd'hui, dans la puissance de sa résurrection. Il sait ce qu'il faut pour mettre une église dans l'ordre, dans l'enlèvement. Il l'a conçu. Il a rassemblé les parties ici dans la Bible. Amen! Laissez simplement le courant passer à travers elle. Maintenant, regardez-la agir. Laissez la foi en sa parole promise pour aujourd'hui couler à travers vous. Vous verrez comment elle opère. Pourquoi? C'est lui qui l'a conçu. Il a conçu son église par la parole. C'est ce qu'il rassemble, non par les méthodistes ou baptistes ou presbytériens ou pentecôtistes, mais par sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, monsieur. Sortez de ces reflets du milieu des ténèbres, de ce temps sombre dans lequel nous vivons en ce moment. Il ne reste plus que 5 minutes du milieu des ténèbres qui va faire sortir la petite épouse. Qui le sait? Le concepteur en chef. Oh oui, de toute cette confusion de reflets. Voici le méthodiste qui reflète un côté, le baptiste un autre, le presbytérien un autre, et les pentecôtistes un autre. Tous ces reflets alentour, ils courent, mettent leur nom par ici, dans ce reflet ici, puis ils découvrent quelque chose par là-bas, et ils viennent par ici, quelque chose par là, et ils viennent par ici. Comme je l'ai dit à ce prêtre, si vous êtes toute l'Église originelle et que vous avez suivi la doctrine de ces hommes qui se sont réunis en ici, pourquoi n'avez-vous pas la puissance qu'ils avaient là-bas au début? Pourquoi ne faites-vous pas ce qu'ils faisaient, comme Jésus l'a dit? Il a dit, oh, nous sommes plus nombreux maintenant, nous vivons dans un âge différent. Jésus a dit, ces signes les accompagneront dans tous les âges. Les cieux à la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. C'est ça. Eh bien, vous parlez d'une Bible. J'ai dit, oui, de la parole qui est Christ. C'est vrai. Alors voilà, voyez. Et dans ce reflet, les méthodistes montrent le leur. Les baptistes montrent le leur. Les presbytériens, le leur. Chacun devient de plus en plus grand, constamment. La pauvre petite épouse, où est-elle? Elle a couru ici chez les unitaires pentecôtistes. Un moment, elle a mis son nom, elle a dit, eh bien, elle va finir par voir, regardez ce qu'ils font. Ils viennent ici, vous devez faire partie de nous. Si vous ne faites pas partie de notre église, vous ne faites pas partie de l'épouse. Vous êtes moins que rien. Ils vont aux assemblées, et regardez ce qu'ils sont. Nous y voilà de nouveau. Ils vont chez les baptistes, regardez ce qu'ils ont. Regardez les presses. Qu'est-ce qui va arriver à la pauvre petite, voyez? Mais elle est en train de sortir. Ne vous en faites pas. Elle sera là. Un type disait, il y a environ 2 ans, il était au Nouveau-Mexique. J'ai tenu une réunion près de Carlsbad Cavern. Vous avez entendu parler d'eux là-bas, ce grain. Ils ont pris un homme et sa femme et un paquet d'enfants. Ils sont allés dans cet ascenseur et sont descendus jusqu'au fond de la grotte. Et quand ils sont arrivés en bas, ils ont éteint toutes les lumières. Et quand ils ont éteint toutes les lumières, il faisait nuit noire. Je leur ai demandé de le faire dans ce jardin ici, à un moment donné, dans le Colorado. Là-bas, ma femme et moi, là, à l'arrière, nous étions là-dedans. Ils ont allumé ces lumières. Oh là là, vous mettez votre main comme ceci, vous ne pouvez pas rien voir. Il y avait là une petite fille, elle s'est mise à crier. Oh! Elle hurlait. Elle était morte de peur. Il faisait si noir. La pauvre petite s'agrippait partout. Il essayait de crier. Elle hurlait pour son papa, sa maman, partout. Elle ne pouvait pas le supporter. C'était si noir. Elle n'avait jamais vu une telle noirceur. Et c'est à peu près comme ça, présentement. C'est vrai. Il fait si noir que vous ne savez pas où aller. Vous allez chez les méthodistes, chez les baptistes, chez les presbytériens, c'est toujours la même chose. Vous voyez, ils mangent cette vieille manne morte, pourrie, avec des vermisseaux dedans. Vous voyez, la même chose, un certain credo. Entrez, joignez-vous à ceci, à l'autre cela, un vieux credo et tout. Ils n'y trouvent, on n'y trouve pas Christ. On y trouve des gens imbus de leur propre justice, si je peux dire. Beaucoup d'entre eux sont des gens bien dans cette dénomination. Je parle du système, pas des gens qui sont dedans. Mais vous voyez, c'est ce qu'ils mangent. Parlez-leur de cela! Et voici de la nourriture fraîche. Cette petite fille qui était là, elle criait de toutes ses forces sur le point de devenir hystérique, à peu près comme la petite épouse. Mais vous savez quoi? Son petit frère s'est écrié. Petite sœur, n'aie pas peur! Parce qu'il était juste à côté de l'ingénieur. Il a dit, il y a un homme ici qui peut allumer la lumière. N'aie pas peur! Petite sœur, il y a un homme ici qui peut allumer la lumière. Il peut faire vivre cette parole. Nous ne savons pas comment il vient. Nous ne savons pas comment, quand il vient. Je ne sais rien à ce sujet, mais il est ici. Il peut allumer les lumières. Comment allez-vous nous en sortir? Je ne sais pas, mais il est ici. Et c'est lui qui peut allumer les lumières. Oui, monsieur, il est le seul. Il est la lumière. Il se fait simplement connaître. C'est comme ça qu'il allume la lumière. C'est exact. Il faut Christ pour faire briller sa lumière. Alors, toutes les ténèbres se dispersent. Il sépare. Il fait sortir sa petite épouse. Je prendrai des gens parmi les gens des nations à cause de mon nom qui porteront mon nom. Quel est son nom? Très bien. Pas méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien. C'est Jésus-Christ. C'est vrai. Il est la lumière, la vérité, la lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Il disperse les ténèbres quand il entre parce qu'il est la parole. La parole est la lumière. C'est vrai, parce qu'il a parlé, il a dit que la lumière soit, c'était la parole qui était devenue la lumière. Quand il prononce ceci, c'est la lumière de cet âge. Chaque fois, maintenant, il est ici. Non pas dans un reflet, mais les gens vivent dans un reflet. Mais il est la parole confirmée. Il est absolument la lumière dans un temps de ténèbres. Oui, monsieur, tous ces faux reflets et ces choses vont disparaître. Oui, monsieur, il est ici. N'ayez pas peur. Ouvrez les lumières. Sa parole promise, elle est vivante. Elle fait, c'est lui qui croit en moi, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Alors, c'est la parole, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui l'a envoyé est venu en lui. Le Jésus qui vous envoie vient en vous. Et les œuvres qu'il a faites, à ce moment-là, il les fait encore à cause de quoi? La parole est faite chair dans la chair humaine. Elle se manifeste comme étant la lumière du jour. Nous en sommes là. Voilà. Cela montre simplement le chemin vers la lumière, dans la lumière. Les hommes sages qui ne sont pas aveuglés par des credos et des dominations vont marcher dans cette lumière. Oh là là! Il y a un homme ici qui peut allumer les lumières. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il confirme sa parole pour ce jour-ci. Jésus, le Fils de Dieu, qui a promis la parole pour ce jour-ci, est ici même avec nous. N'ayez pas peur, ne faites pas attention à ce qu'ils font. Si vous le faites, vous marcherez dans les ténèbres. Soyez sages. Ceux qui agissent sagement, a dit Daniel, dans ces derniers jours, feront des exploits pour leur Dieu. Voyez, ils marcheront dans la lumière, comme il est dans la lumière. Ne vous inquiétez pas, il fait peut-être sombre, on dirait qu'ils vont nous forcer tous. Tous ceux-là vont sortir leur proclamation. Toutes ces petites églises et ces choses doivent rentrer maintenant. Vous devez entrer, vous fermez vos portes. Ils vont le faire. Maintenant, vous l'ont frappé très fort sur cela, quand je vais en arriver à ça ce soir. Bon, nous allons fermer, vous devez l'être l'un d'entre eux. Sinon, vous serez soit avec eux ou vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez même plus acheter ni vendre. C'est ça. Vous n'oserez plus prier pour les malades. Si vous êtes pris en train de parler à un malade ou à une personne de choses spirituelles, vous serez soumis à une loi fédérale pour être exécuté. C'est tout à fait vrai. Vous voyez? Vous le savez. C'est vrai. C'est dans leurs journaux. Oui, monsieur. Vous ne pourrez pas le faire. Vous devrez appartenir à la secte. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous feriez mieux d'être sûr d'avoir Christ dans votre cœur dès maintenant, parce qu'il vient un temps où vous allez vraiment en avoir besoin. Vous serez rejeté. Alors, souvenez-vous, quand ce sceau est appliqué, il est là pour de bon. Voyez? Alors, ne le faites pas. N'allez pas croire ce genre de choses. Entrez directement en Christ tout de suite. La parole. Oui, monsieur. Il confirme la parole et montre qu'elle est la lumière de l'heure. C'est ainsi que nous savons qu'il est la lumière parce qu'il est la lumière qui se manifeste dans la chair. Comment le savons-nous? Il était la parole de Dieu faite chair. Voyez? La parole de Dieu qui se déploie, qui se confirme. Quand le Messie viendra, c'est ce qu'il fera. La femme au puits a dit, quand le Messie viendra, il fera ces choses. Vous devez être le prophète qui a la parole, qui nous prédit des choses. Il a dit, je le suis. Voyez, c'était suffisant. La lumière a brillé sur la parole promise. Voilà la lumière. Elle est allée tout de suite dans la ville. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? C'était réglé. Voyez, peu importe ce que les autres disaient, elle savait que c'était le Messie. Souvenez-vous qu'à chaque âge, au temps de ténèbres, Dieu a toujours eu sa parole pour séparer la lumière des ténèbres. Il avait du temps de Luther, quand l'Église catholique avait tout. Il a envoyé Luther comme une lumière brillante et Luther a séparé la vérité des ténèbres. Et quand les luthériens se sont embrouillés, il a suscité un John Wesley, il a séparé la lumière des ténèbres. Et au jour des pentecôtistes, quand les Wesleyens étaient tous, et les méthodistes se sont tous engorgés, les baptistes et presbytériens, ils ont envoyé le message pentecôtiste pour séparer la lumière des ténèbres. La Pentecôte est retournée aussitôt dans les ténèbres, comme ça, dans leur organisation, ils ont pris leur credo et ces choses. Maintenant, l'heure est venue où cette parole doit être confirmée. Il envoie la lumière et la parole manifestée comme il l'a fait au commencement. Il envoie la parole et elle se confirme elle-même. Il y a la lumière et il sépare toujours. C'est la même chose maintenant que pour les petites lumières éternelles du commencement. En regardant les enfants, comme je l'ai dit, j'ai dépassé mon temps de 5 minutes. Mais laissez-moi dire cette dernière chose. Il y a un homme ici. N'ayez pas peur, quoi qu'ils disent. J'ai vu cela arriver au point où je ne savais plus où aller ensuite, mais il est toujours présent. La présence infaillible, il est toujours là, il peut allumer la lumière. Oui, monsieur, il attend juste de voir ce que vous allez faire. Il peut appuyer sur l'interrupteur chaque fois qu'il le veut. Oui, monsieur, il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. Ceux qui vivaient dans les régions de l'ombre et de la mort, certains sont un cancer, d'autres sous la mort de la dénomination, d'autres encore sous la mort des credos, d'autres encore sous la mort des traditions et toutes sortes de morts. Ils ont vu une grande lumière. L'homme qui a fait briller les lumières à ce moment-là est celui qui a dit au commencement que la lumière soit ce même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Il est présent aujourd'hui, ici même, maintenant. N'ayez pas peur, il peut allumer les lumières. Quand la persécution viendra, n'ayez pas peur. Il y a une lumière. Il a dit qu'il enlèverait les siens au loin. Il ne passera pas par la tribulation. Elle ne le fera jamais. Il a dit qu'elle ne le fera pas. Elle sera enlevée. Comment vont-ils le faire? Frère Branham, il fait terriblement sombre. Peu importe combien ça devient sombre, que vous ne puissiez pas voir votre main devant vous, rappelez-vous simplement qu'il y a un homme ici qui peut allumer la lumière. Il va prendre cette église dans l'enlèvement. Vous dites, eh bien, je suis juste. Oui, Shadrach, Meshach et Abednego sont allés jusque dans la fournaise ardente, mais il y avait là un homme qui pouvait faire circuler l'air. Oui, monsieur, ce vent impétueux qui est tombé le jour de la Pentecôte, il l'a de nouveau actionné, a soufflé toute la brise loin d'eux, tout le feu. Il y avait là un homme, on l'appelle le quatrième homme. Il y en a un ici aujourd'hui, il est le seul. Alléluia! Il a l'interrupteur de lumière à la main. Ceux qui vivaient dans les régions de l'ombre de la mort ont vu une grande lumière se lever. Ne la rejetez pas. Recevez-la dans le nom du Seigneur pendant que nous inclinons la tête un moment. Oui, nous marchons dans la lumière, là où la miséricorde étincelle, brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons. Dans la lumière, là où la miséricorde étincelle, brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde, vous, tous les saints de la lumière, proclame Jésus, la lumière du monde. Les cloches de joie du ciel retentiront. Jésus, la lumière. Qu'est-ce la parole confirmée est Jésus aujourd'hui? Il est la parole. Oui, nous marcherons dans cette lumière. C'est une lumière si belle. Là où la miséricorde étincelle. Oh, brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière. Avec la tête inclinée, je me demande combien d'entre vous voudraient marcher dans cette lumière sous la conduite du Saint-Esprit, la parole confirmée d'aujourd'hui. Voyez, la parole que Dieu a promise pour aujourd'hui, vous la voyez manifestée. N'était-ce pas ce qu'il était au commencement? Il était la parole. Le Fils aîné, il était la parole. Il était le Messie. Il était la parole confirmée. Alors, la parole, Dieu a prononcé la fin dès le commencement. Maintenant, il y a une parole pour ce jour-ci. Et il est ici pour confirmer cette parole. Au milieu de la confusion des ténèbres et des reflets, ça lui ressemble beaucoup, mais ce n'est pas cela. Ça ne correspond pas à la chose, le credo. Jésus a dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, par qui les chassez-vous? Ils ne les ont pas chassés, mais non. Si je chasse un démon par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Oh, pensez-y. Alors que nous levons la main, doucement maintenant, et pensez-y bien tranquillement. Oui, nous marcherons dans cette lumière. Et là où la miséricorde étincelle, faites votre confession, croyez en Dieu maintenant. Brille autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons dans cette lumière. C'est une lumière si belle. Là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Pendant qu'ils continuent à jouer, je veux vous demander, à chaque âge, c'était pareil. Du temps de Noé, ceux qui ont rejeté la lumière, qu'ont-ils fait? Ils sont allés dans le jugement de Dieu. Qu'est-il arrivé à Pharaon du temps où la lumière du buisson ardent qui était dans Moïse, il s'est avancé dans la mer de la mort? Qu'est-il arrivé à Dathan, qui avait commencé ensuite à rejeter la lumière? Il s'est retrouvé dans la fissure de la terre qui l'a englouti. Qu'est-il arrivé dans tous les âges à ceux qui ont failli de marcher dans la lumière du jour? C'est Jésus tout au long. C'était Jésus du temps de ces hommes. C'est Jésus aujourd'hui, car il est la parole et la parole produit la lumière. C'est la lumière du jour. Pensez-y maintenant, très doucement, pendant que nous sommes sincères. Demandez-vous si vous marchez dans la lumière pendant que nous le fredonnons à nouveau. Belle lumière. Là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous, le jour et la nuit. Ô Jésus, la lumière du monde. Levons-nous maintenant, je prie. Je prie le Père Céleste de laisser ce message s'imprégner profondément dans le cœur des personnes qui sont présentes et de celles qui l'entendront par les bandes, et puisse la lumière venir sur la parole, la semence, et produire chaque semence prédestinée qui a été plantée ici dans ces différents reflets et organisations, qu'ils voient comme Nicodème, même s'ils doivent venir de nuit, qu'ils viennent à la lumière. Accorde-le, Père. Puisse ce grand enjeu se produire, ce rocher qui s'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main. Il va écraser ces royaumes des gens des nations jusqu'à leur ruine, tous ces royaumes, les royaumes spirituels et les royaumes naturels, et le rocher va couvrir toute la terre. Ce sera un sujet de purification. Ceux que ce rocher va écraser seront réduits en poudre. Ceux qui tomberont sur ce rocher auront une fondation solide. Ô Christ, laisse-moi, en tant que ton serviteur, mourir sur ce rocher de ta parole, Seigneur Dieu. Laisse-moi prendre position comme David et ce guerrier d'autrefois qui prit position pour David. Laisse-moi prendre position pour cette parole aujourd'hui, alors que je vois qu'elle est rejetée par les dénominations. Elle se trouve ici en retraite quelque part. Ô Dieu, accorde-nous d'avoir la force et le courage et le Saint-Esprit pour prendre position, car les heures deviennent de plus en plus sombres. Permets que nous nous souvenions toujours que tu es toujours là pour allumer la lumière. Alors que tu veux, tu peux allumer la lumière, Père. Ainsi nous prions. Comme tu l'as dit, vous êtes la lumière du monde. Accorde, Seigneur, que nos lumières qui sont à ton service brillent si clairement pour les autres, qu'ils voient la lumière de l'Évangile alors que nous la vivons, Seigneur, jour après jour, le reflétant la vie de Jésus-Christ tel qu'il était sur la terre, rempli d'humilité et de douceur, mais pourtant avec la parole qui vivait à travers lui. Accorde-le, Seigneur, car nous nous tournons vers toi, celui qui est grand avec l'interrupteur à la main. Tu tiens le monde dans ta main, tu tiens toutes choses dans ta main et tu maintiens le monde par ta parole. Ô Père, laisse-nous recevoir la parole. Veux-tu, s'il te plaît, Seigneur, que cela soit le témoignage et le désir de chaque cœur ici présent. Père, alors que nous allons chanter le 16e, comme David a chanté le 16e, ils sont devenus des prophéties. C'était des prophéties et tu les as reconnues comme étant des prophéties. Alors que nous le chantons, Seigneur, que ce soit dans notre cœur aussi, alors que nous chantons, oui, nous marcherons dans la lumière. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. C'est une lumière si belle. C'est la parole, c'est Christ qui vit parmi nous parce qu'il était ce qu'il est. Et nous savons qu'il était, ne reflétait que ce qu'il est. Et nous prions, Père, pour que les gens comprennent et marchent dans cette lumière si belle. Nous le demandons au nom de Jésus. Pendant que nous restons debout un instant, je veux que nous chantions tous. Bon, ici, il y a des presbytériens, des méthodistes, des catholiques. C'est un auditoire mixte quand il s'agit de dénomination. Maintenant, souvenez-vous que l'on sache que je ne dis rien contre les gens qui sont dans ces reflets, mais je les ai prouvés par la Bible que ce sont des reflets. Si elle n'en était pas, Christ ferait ce qu'il a promis de faire avec elle. Voyez, mais elle refuse cela. Et quand vous en arrivez là, qu'est-ce que vous trouvez? Adhérer à l'Église, réciter un credo, qu'est-ce que ça donne? Au bout du chemin, vous découvrez que c'était un faux mirage. Christ est la parole. Il est la lumière. Vivez maintenant, pendant que vous pouvez vivre. Vivez pour quelque chose. Pourquoi vivez-vous? Afin de pouvoir mourir. Chacun d'entre vous, pourquoi travaillez-vous? Pour manger. Pourquoi mangez-vous? Pour vivre. Pourquoi vivez-vous? Pour mourir. Alors pourquoi ne pas vivre pour vivre? Pourquoi ne pas vivre pour vivre? Puis la seule façon dont vous pouvez vivre est d'accepter la parole. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, ce que nous faisons ici à la sueur de notre front, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, la parole de la bouche de Dieu est confirmée ici même devant nous par le Saint-Esprit. Vivez par elle et ne voulez-vous pas? Maintenant, je veux que pendant que nous chantons et ceci à nouveau, que chacun se tienne à sa place et tende la main pour saisir la main de quelqu'un et dise, frère, marchons dans cette lumière pendant que nous chantons. Nous marcherons dans la lumière, d'accord? Priez les uns pour les autres pendant que nous joignez vos mains et que nous le chantons ensemble en gardant les yeux fermés dans la mesure du possible. Oui, nous marchons dans la lumière. Là où la miséricorde étincelle, brille autour de nous, le jour et la nuit. Qui est-ce? Jésus, la lumière du monde. Maintenant, levons les mains. Oui, nous marcherons dans la lumière. C'est une belle lumière là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous le jour et la nuit. Ô Jésus, la lumière du monde. Venez, vous tous, saints de la lumière, proclamez. Qu'est-ce que c'est? Jésus, la lumière du monde. Alors les cloches du ciel retentiront. Jésus, la lumière du monde. Tous ensemble, chantons-le maintenant. Oui, nous marcherons dans la lumière. Et c'est une belle lumière, là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous. Le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Avec la tête inclinée maintenant, rappelez-vous quand Israël était dans leur voyage, ils mangeaient chaque jour de la nouvelle manne. Ils marchaient dans la lumière d'une colonne de feu. Cette colonne de feu était Jésus-Christ. La Bible dit qu'elle l'était. Et aujourd'hui, il est avec nous, nous l'avons. Nous savons qu'il est avec nous, la même colonne de feu qui fait les mêmes choses que lorsqu'il était ici sur la terre pour accomplir sa parole. En partant d'ici, souvenons-nous, gardons ce chant dans notre cœur alors que nous rentrerons dans nos maisons, alors que les roues fredonnent un chant. Avant de manger votre dîner, inclinez la tête et remerciez Dieu d'avoir envoyé la lumière pour produire de la nourriture sur la terre pour votre corps physique. Puis remerciez Dieu d'avoir envoyé la lumière spirituelle, sa parole, afin qu'il puisse donner de la nourriture à votre âme. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Continuez à chanter cet hymne en vous-même, dans votre maison, dans votre famille. Et retrouvons-nous ici vers environ 6h30 ce soir pour les cartes de prière et ainsi de suite. Nous vous reverrons à ce moment-là. D'ici là, inclinez la tête. Je vais demander à Frère Neville s'il veut monter ici. Maintenant, le pasteur est terminé par un mot de prière.